Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour la première émission de l'année 2024. Donc nous en profitons pour vous souhaiter à tous, pour souhaiter à tout le monde de produire l'énergie nécessaire d'une mise en mouvement de compréhension d'histoire, de compréhension d'histoire universelle de la vie du monde pour mieux saisir l'histoire du monde de sa vie singulière. Donc, nous souhaitons à tous de continuer ou d'entrer dans le chemin du vrai pour de vrais actes de compréhension jouissive, de vraies rencontres de fraternité, de vraies rencontres d'amour. Et toutes ces véritables joies, elles ne peuvent que résulter de l'abolition de notre provenance aliénatoire en vue de notre destination générique. Et on ne peut abolir notre provenance aliénatoire qu'en se faisant acteur, qu'en se faisant producteur, qu'en étant le forgeron de sa destination. Nous aurons la destination que nous nous forgerons. Donc aujourd'hui, au programme de la Forge, nous avons une émission qui s'intitule l'opposition totale. Je répète, l'opposition totale Proudhon-Marx. Comme horizon indépassable d'une vraie compréhension révolutionnaire de l'abolition de l'argent, du salariat et de l'État. Alors, contrairement à ce que l'on pourrait penser, ce n'est pas ce débat, cette opposition totale entre Proudhon et le groupe Marx-Engels, ce n'est pas un regard que l'on va poser vers le passé, mais c'est bien le contraire, c'est un regard que l'on va poser non seulement sur le temps présent, mais surtout sur le temps à venir, puisque nous sommes depuis 2018 dans la crise terminale du capital, dans sa phase formelle, et nous nous dirigeons d'ici quelques temps, quelques années, vers la crise, vers la phase réelle de cette crise terminale qui se manifestera par l'effondrement. Donc effondrement, ce n'est pas du jour au lendemain, c'est une période, mais nous nous dirigeons vers l'effondrement de l'équivalent central fétichiste dollar, donc l'effondrement du billet vert. Alors, de nombreux analystes de la dissidence voient cette crise arriver. Maintenant, il y a une spécificité de tous les groupes radicaux qui s'inscrivent dans la continuité, la poursuite du travail de compréhension du mouvement réel de l'histoire du groupe Marx-Engels, c'est que cette crise sera la dernière. C'est pour ça qu'elle s'appelle la crise terminale du capital. D'où l'importance de cette opposition, de bien saisir cette opposition totale qu'il y a entre Proudhon et le groupe Marx-Engels. Et cette opposition totale, elle consiste à comprendre qu'on ne peut pas produire une autre économie sous quelque forme que ce soit, que la compréhension du moment réel de l'histoire fait que l'on comprend que l'on va vers l'abolition de l'économie, parce que les conditions objectives vont être réunies avec la jonction entre la pratique et la compréhension théorique que ce monde-là va s'effondrer, qu'il y a une nécrologie du capital. Donc avant de rentrer dans la spécificité de l'opposition totale Proudhon groupe contre le groupe Marx Engels et par-delà les spécificités de leur vie personnelle, on va peut-être Michel recadrer ce qu'est un débat dans quelles circonstances, dans quel contexte ça intervient périodiciser, contextualiser. Donc, je te passe la parole pour, avant de démarrer sur le sujet, peut-être faire recadrer ça comme tu sais si bien le faire.
Donc, bah déjà, je me joins à toi pour souhaiter une bonne année à tout le monde. Donc, une vraie année, comme tu l'as bien précisé. Et donc, d'une certaine façon, on pourrait dire, en lien avec l'émission, une année vraiment anti-proudhonienne et à tous les niveaux. Le proudhonisme, ce n'est pas simplement un rapport aliénatoire philosophique au monde. Si on est anti-proudhoniste, on est anti-proudhoniste philosophique, politique, tout ce que vous voulez, et même dans la vie conjugale, dans la vie familiale, etc. Et c'est le cœur de ce débat. Alors, pourquoi on a choisi de se lancer sur ce débat-là? D'abord, comme tu l'as dit, il faut se poser la question de qu'est-ce qu'un débat? À l'époque où Marx écrit, où Proudhon commence à écrire avant Marx, et notamment Marx, en Prusse, le débat, c'est impossible. D'ailleurs, quand Marx répond à Proudhon, il est déjà parti d'Allemagne depuis un moment. Aujourd'hui, à l'inverse, on pourrait se dire que le débat est partout. Il suffit d'allumer sa télé, d'allumer sa radio, YouTube, etc., n'en parlons pas. Le débat est devenu une production industrielle de masse où des individus particuliers demandent à d'autres individus particuliers de bien vouloir parler avec eux pour exposer leur vue particulière. Mais un débat historique, c'est pas ça. Un débat, au sens historique, c'est un dialogue qui tranche une question, qui la tranche donc définitivement pour l'histoire, et qui, normalement, évite de multiplier les débats subjectifs qui vont suivre, qui ne font que reproduire ce débat qui est déjà tranché depuis donc plus de 150 ans. Donc pourquoi ce débat-là est si important pour nous aujourd'hui? On a vu, alors je ne sais pas si c'est dans les derniers mois, mais tout au plus ces dernières années, des rééditions se faire, des bouquins de Marx et de Proudhon. Le débat qui est réanimé sous une forme encore une fois subjective, où certains essaient de synthétiser les pensées de Marx et de Proudhon. On ne peut pas synthétiser quelque chose qui est radicalement contradictoire. C'est pour ça qu'on a titré cette émission. Donc, comme tu le disais, je crois que c'est l'opposition totale Marx-Proudhon. On a mis, je pense, dans une citation qui vient de passer avant le début de l'émission, une citation de Hegel qui date de 1820, je crois, et qui est extrait de la philosophie du droit, où il explique justement que c'est parce que l'opposition est absolue qu'elle peut se résoudre, Quelqu'un qui essaie de goupiller quelque chose comme il peut, en partant toujours de sa subjectivité, au regard de ce que dirait Marx en tant qu'individu, puis au regard de ce que dirait Proudhon en tant qu'individu, et puis il essaierait d'attraper, de capter ce qui serait intéressant pour nous aujourd'hui et de faire un grand mélange. Il ne fait en fait que trancher du côté de Proudhon. C'est ce que fait Proudhon. Et c'est le cœur de la critique de Marx. Proudhon passe son temps à essayer de récupérer les bons côtés de toutes les catégories de l'économie politique et de les positiver. Donc quelqu'un qui récupère qui veut réactualiser ce débat-là sous le mode de la synthèse, il ne synthétise pas Proudhon et Marx, il retourne à Proudhon en pire, parce que Proudhon avait pour lui le fait que ce débat n'avait pas eu lieu. Proudhon, tu parlais de temporalité, donc il écrit d'abord ça, qu'est-ce que la propriété, donc c'est 1840. Hegel, j'ai dit une bêtise d'ailleurs tout à l'heure, la phrase que je citais c'était 1802, c'était la logique d'Iéna. En 1820, Hegel écrit dans la philosophie du droit, il parle de cette question de la misère en 1820. Il n'en parlait pas en 1798. Il parle de cette question de la misère en 1820 parce que certes, si le prolétariat n'a pas encore émergé comme force cohérente dans l'histoire pour lui-même, on a déjà tout un tas de luttes qui émergent et qui font percevoir à Hegel, qui a un œil acéré sur l'histoire, que ça va être la grande question du siècle, la question de la misère. Il le dit que ça tourmentera toutes les sociétés modernes à partir de ce moment-là, 1820. On a eu au début des années 1810 le ludisme, par exemple, avec les briseurs de machines en Angleterre. Donc, Hegel, comme tout penseur, commence à le penser parce qu'il commence à le voir. Et ça nous amènera tout à l'heure à ce qu'on dira plus en détail sur Proudhon et Marx. Marx, comme Hegel, sont des penseurs du monde réel, c'est-à-dire qu'ils n'essaient pas. Ils accueillent l'objectivité du mouvement réel qui se fait sous leurs yeux. Proudhon, qui est lui-même un produit du mouvement réel, parce qu'il ne peut pas écrire Qu'est-ce que la propriété en 1800, même s'il n'était pas encore né. C'est en 1840, suite à ces luttes des années 1810, 1820, puis 1830, les Canuts, etc., et 1840 qui vont mener à la révolution de juin 1848, qu'est-ce que je disais? Je me suis perdu.
Tu parlais du groupe Marx-Engels qui n'était pas doctrinaire dans le sens où ils n'amenaient pas de solution. Ils accueillaient le mouvement réel de l'histoire et que c'est bon, tu as retrouvé le fil ou
Vas-y,
comment?
je t'en prie.
D'accord, non, mais donc ça, c'est quand même un élément majeur à prendre en compte dès le départ, c'est que on a des doctrinaires. Alors, c'est pas que Proudhon, Proudhon a son analyse et il y pose ses solutions. Et le groupe Marx-Engels, et ça c'est fondamental, analyse et accueille ce qu'a été le mode de production capitaliste depuis sa naissance jusqu'à maintenant. Et donc, on va voir après, au fur et à mesure qu'on va avancer, on va revenir. Ben, je pense que tu as retrouvé ton fil, donc je vais te laisser le dérouler un
Je ne
peu.
me
Et
rappelle
puis,
plus, mais c'est pas grave, enchaîne, ça me reviendra.
par rapport à ces solutions, il y a un début donc il y a Proudhon qui est l'aîné de Marx de 9 ans, je crois, qui va en 1840 écrire Qu'est-ce que la propriété, qui fera un effet un peu de bombe électrique, et parce que c'est un écrit de quelqu'un qui manifeste sa rage, qui tape du poing sur la table. Mais on verra tout au long de l'émission que et d'ailleurs Marx saluera cet effet de manifestation instinctive de dénonciation et de rage contre l'ordre établi. Tout en disant la réalité, à savoir que c'est un coup de poing sur la table, mais qu'il n'y a pas d'analyse, de détermination, de caractérisation de ce qu'est la propriété. et on le déroulera. Mais c'est ce qui fait que en 1840, Proudhon écrit que la propriété, c'est le vol, et que un peu plus tard, dans les années 1860, il finira avec la propriété, c'est la liberté. Alors, il ne s'agit pas pour nous de critiquer ça sur le fait qu'un mot peut avoir un sens, une acception différente, mais c'est qu'à partir du moment où on ne caractérise rien, on ne détermine rien, on ne donne pas de contenu à qu'est-ce que réellement la propriété. Eh bien, après, on peut partir dans tous les sens et être récupéré par tout le monde. Et quand tu parlais de proudhonisme, même si des analystes vont dire que Marx est sorti vainqueur, que ceci, que cela, tout ça, on s'en fiche. Ce qu'on constate aujourd'hui, en 2024, c'est que l'abolition de l'argent, ça paraît être un discours venu de notre temps. C'est tout le monde est proudhonien aujourd'hui, même les gens qui ne connaissent pas Proudhon. Et comme tu l'as dit, Proudhon avait on peut être moins dur avec Proudhon qu'avec les économistes vulgaires de maintenant, parce que les économistes vulgaires de maintenant, qui ne caractérisent pas ce qu'est la valeur, ont toute une histoire riche où tout le mouvement réel de l'histoire est décrit. Et de la naissance au déploiement jusqu'à la nécrologie du capital. Et tout ça, ce n'est jamais pris en compte. Et d'ailleurs, même les gens qui se réfèrent à Marx, la plupart sont proudhoniens. Et ça, on y reviendra aussi. Donc, je te relaisse avec ton fil ou un
Je
nouveau
reviens,
fil.
je crois que j'étais sur le mouvement réel. Proudhon pense des catégories. Marx lui répond qu'une catégorie, ça n'existe pas. Proudhon, donc pour ceux qui connaissent le bouquin Misère de la philosophie, il y a des chapitres sur la valeur. Alors, je ne sais plus dans quel ordre, Maurice, mais la division du travail, les machines, la concurrence, le crédit, etc., etc., pour finir à la propriété. Il raisonne idéalement sur un objet qui est un objet idéal, rien de plus. C'est la concurrence, et il se questionne abstraitement sur la concurrence. Marx lui explique que la concurrence, ça n'existe pas comme idée, pas plus que n'importe quelle autre idée. On parlera peut-être de l'égalité tout à l'heure, c'est important parce que c'était l'idée fixe de Proudhon. Une idée émerge parce qu'elle est la mise en forme de la réalité de la matérialité sociale. La concurrence qui est centrale dans le mode de production capitaliste, elle n'est pas centrale, elle n'existe même pas dans le mode de production féodal. Mais Proudhon questionne pas cette historicité, il va raisonner comme si, et c'est ce que dit Marx sur la question de l'éternisation des concepts, il fait exactement ce que font tous les penseurs bourgeois, il s'imagine, et c'est en ce sens qu'il est pour petit bourgeois, nos critiques habituelles qui essaient de ramener Proudhon sur devant la scène de façon positive, nous explique que Proudhon est un prolétaire, un vrai, et que Marx serait un descendant de rabbin bourgeois. Marx, comme Proudhon, comme n'importe qui, comme Maurice, comme moi, et comme n'importe quel être humain, sa clé, ça n'est pas d'où il provient, sa clé, c'est sa destination. Le problème de la destination de Proudhon, c'est que il s'arrache à sa condition dans la division du travail, d'une certaine façon, pour devenir un spécialiste de l'idée. Le fait que dans son ascendance, il soit plus prolétarien que dans l'ascendance de Marx, ne résout rien. Au contraire, c'est quelqu'un qui s'arrache de sa situation seul. Il y a une mythologie aujourd'hui de l'autodidacte. Donc qui n'est que le reflet dans le domaine des idées de l'autodidacte, de celui qui s'est fait tout seul dans le domaine de l'entreprise capitaliste. C'est valorisé exactement de la même façon. C'est quelqu'un qui, par la force de son travail, de son courage intellectuel, s'arrache à sa condition et se met à penser le monde. Mais par définition, il ne peut pas penser correctement le monde qui est le monde du prolétariat, simplement parce qu'il vient du prolétariat et qu'il se met à réfléchir tout seul dans sa tête sur ce qu'est sa condition et la condition de sa classe. Marx, lui, à l'inverse, aurait pu avoir une vie facile, être la nouvelle star de la philosophie allemande comme l'a été Hegel avant lui, etc. Et lui a aboli sa condition Alors, ça ne fait pas de lui un prolétaire au sens où il n'est pas allé à l'usine, mais il a une vie de difficultés immenses, pas Proudhon aussi hein, d'ailleurs, mais de difficultés immenses. Donc, la clé, ce n'est pas de savoir est-ce que ses parents étaient prolétaires. J'ai entendu aussi c'est un Allemand, donc nous, on veut des penseurs français, et puis c'est un Juif, on ne veut pas de penseurs juifs, etc. Mais, Marx, d'ailleurs, il se dit grec, c'est un Européen, il n'est pas allemand. Et ce qui l'intéresse, c'est pas de penser à l'allemande, à la française, à l'anglaise ou je ne sais quoi. Ce qui l'intéresse, c'est de penser la réalité objective du monde. Et ça, c'est la clé. Et le problème aujourd'hui, c'est que pourquoi on repart de ce débat-là? Parce qu'une fois qu'on s'intéresse à des débats comme ça qui tranchent des questions, on parlera après du communisme, de ce qu'en disait Proudhon, etc. C'est ce qu'on appelle un acquis méthodologique, c'est-à-dire on ne questionne plus ce qui a été questionné. C'est fondamental. Là, et c'est fondamental aujourd'hui. On a eu les gilets jaunes, donc là, on vient de rentrer en 2024. Les gilets jaunes, ça a commencé il y a un peu plus de 5 ans.
Je te coupe sur. Donc je retiens que tu es sur les gilets jaunes, comme ça je saurais te redonner le fil. Non, c'est par rapport à. On a parlé de la provenance de Marx et de Proudhon, et c'est vrai que on peut entendre de ci, de là. Moi, je sais que même en manifestation, quand on discute, c'est venu, mais on peut entendre ça aussi ailleurs. On peut entendre que. Alors, c'est pas important, mais puisqu'on est sur sur Proudhon, Marx, autant le dire. On peut entendre que Marx a une vie de bourgeois. Voilà, on essaye de jeter l'opprobre comme ça. Alors, ça n'a, et bien, ça n'a aucun intérêt, mais surtout, c'est complètement faux. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui a vécu dans une misère totale, qui a perdu un enfant, peut-être deux.
Trois.
Il y a alors trois, mais un sur de sous-alimentation. Donc il y a vraiment une misère noire. Il y avait une puissance de travail qui a fait que dans le groupe Marx-Engels, où il y avait cet échange permanent, qui fait que on ne s'enferme pas dans dans des convictions, on ne reste pas prisonnier. Engels l'a aidé financièrement pour le maintenir en vie, pour qu'il puisse exprimer sa puissance de travail. Et c'est tout. Il a vécu dans une misère noire. Alors, ses conditions matérielles, on s'en fiche maintenant. Mais quand on veut dire le contraire de ça, c'est que ou on ignore, et dans ce cas-là, on devrait avoir la modestie ou l'humilité de se taire, ou on le sait et on est malhonnête. Mais c'est pas très important, mais puisqu'on est sur l'émission, autant le préciser. Je te donne le fil sur les gilets jaunes.
Oui, j'étais sur les gilets jaunes. Parce que le grand problème, et puis surtout depuis le XXe siècle, le grand problème de toute émergence sociale, et maintenant c'est de pire en pire, puisque on enseigne l'ignorance, donc et centralement l'ignorance de la réalité de ce qu'est la vie des prolétaires depuis 200 ans. Quand les gilets jaunes émergent, au départ c'est un mouvement spontané, puis très vite vont s'agréger à ça des intellectuels. Proudhoniens, entre guillemets, même s'ils ne le savent pas, ils vont aller voir les gilets jaunes, leur expliquer que s'ils butent, c'est qu'ils n'ont pas l'idée, finalement. Ils n'ont pas la bonne idée. Et eux, en tant que spécialistes de la bonne idée, parce qu'ils sont tous, il y a les juristes qui viennent leur parler c'était pareil sur le vaccin, les juristes qui viennent parler de droit, il y a les économistes qui viennent leur expliquer la monnaie, il y a les spécialistes de la Constitution qui viennent leur expliquer que s'ils sont écrasés, c'est parce que la Constitution les écrase et qu'il faut qu'ils l'écrivent eux-mêmes, etc. Tous ces gens sont des gens qui n'arrivent pas à penser la réalité totale, absolue, de ce qu'est le rapport d'exploitation. Donc il faudrait peut-être qu'on parte là-dessus, Maurice, par rapport à notamment à ce que dit Proudhon dans Qu'est-ce que la propriété? Donc, comme tu disais tout à l'heure, je crois que dans Qu'est-ce que la propriété, c'était un premier jet, un élan, disons, mais Proudhon n'a pas encore travaillé vraiment l'économie. Et Proudhon, tu voulais dire quelque chose?
Oui,
Non?
mais vas-y, vas-y, fini, fini.
Et Proudhon pense dans Qu'est-ce que la propriété que la plus-value, l'extorsion, elle se fait sur le droit d'aubaine, c'est-à-dire que pour lui, le capitaliste ne paye pas quand plusieurs humains se mettent ensemble pour faire un travail, la somme des travaux de chacun est inférieure à la réalité de ce qu'ils font tous ensemble. C'est-à-dire, pour parler plus concrètement et mieux le formuler, si seul je travaille pendant 200 heures à faire quelque chose, je ne vais pas réussir à faire ce que vont faire 200 personnes en 1 heure en le faisant en même temps. Je crois qu'il donne l'exemple de l'obélisque. Je peux travailler pendant 1000 heures tout seul, je ne pourrai pas soulever l'obélisque. Bon, Proudhon s'imagine donc qu'en fait, dans mon exemple de ces 200 personnes, chacun est payé à hauteur de son travail, mais qui aurait une plus-value qui est le résultat du travail collectif, rien de plus. Et que ça, c'est ça que s'accapare le capitaliste. Donc Proudhon ne comprend pas la base du rapport social dans la société capitaliste, mais même dans toutes les sociétés depuis qu'on a quitté le communisme originaire, c'est-à-dire que le travail est exploité. Mais il est exploité collectivement, mais il est exploité individuellement. C'est pas le domaine. Il comprend pas qu'un prolétaire, on peut le faire travailler au-delà de ce qui lui est nécessaire pour maintenir son quotidien et pour se reproduire chaque jour. Et donc, à partir de là, pouvant le faire travailler au-delà, on va pouvoir s'accaparer cet au-delà, justement. Mais qu'il soit à 200 ou qu'il soit seul. Tu veux
Oui,
poursuivre?
je veux bien poursuivre et donner quelques exemples concrets. Juste avant, revenir juste sur ce que tu as dit sur quand on disait que les Gilets jaunes n'avaient pas la bonne idée, c'est exactement l'analyse de Proudhon au sortir de la Révolution de 1848, qui sera l'avènement de la Deuxième République. C'est exactement ce que Proudhon a dit pour justifier qu'elle avait échoué. Quand le groupe Marx-Engels disait que les conditions objectives n'étaient pas encore réunies. Comme quoi, enfin, les mêmes choses se répètent à différentes époques à partir du moment où on n'a pas une compréhension radicale des conditions objectives du seuil où naît une crise. Et donc, tu parlais de l'épisode des grenadiers qui vont redresser l'obélisque de Louxor où 200 grenadiers. Dont on cite cet exemple dans Qu'est-ce que la propriété, où 200 grenadiers payés 1 heure vont accomplir, comme tu l'as dit, un travail que un homme en 200 heures, donc au final il y a le même nombre d'heures, ne pourra jamais accomplir. Et il voit là, à juste titre, une partie de ce qu'on peut appeler les forces productives. C'est ce qu'on va c'est ce que je vais prendre un exemple de force productive parmi d'autres, mais pour montrer que Marx là-dessus l'analyse des forces productives ou l'analyse de ce sur quoi est basée la plus-value de Proudhon par rapport à la pertinence et à la richesse qu'en fait Marx, il y a un fossé il y a un fossé énorme. Donc pour parler de force productive, on parlera aussi de la notion d'égalité. C'est vrai que Proudhon il revient dessus sur la notion d'égalité dans Qu'est-ce que la propriété. Je crois qu'il dira même à un moment que l'égalité qui n'a pas pu vaincre par l'épée vaincra par la parole. Voilà. Donc juste pour expliquer ce que c'est un exemple de force productive, mais je peux prendre un exemple qui s'est passé qui est historique. C'est en Hollande où avec le développement donc de la valeur d'échange, on a besoin dans la sphère de la circulation, on a besoin de fabriquer des bateaux et on a une invention qui va faire un grand saut dans l'avancement des forces productives, c'est le fait de transformer une énergie circulaire en énergie verticale. Donc c'est l'invention du vilebrequin qui va faire qu'on va se servir des moulins pour avec des scies verticales pouvoir découper des troncs d'arbres et faire beaucoup plus de planches que n'en feraient des hommes à la scie manuelle. Précaution importante que je dis de suite, ce n'est pas l'invention de cela qui a fait que la Hollande a pu développer ses bateaux et sa production et sa circulation. C'est la nécessité de déploiement de la valeur d'échange qui a fait qu'il y a eu cette invention. C'est la même chose quand on dit, et ça paraît anodin, et c'est fondamental d'avoir ça en tête, l'invention de l'écriture ou des chiffres, ce n'est pas, il n'y avait pas des chiffres qui servaient à quelque chose, à compter les arbres dans la forêt ou à compter les nuages, et qui après auraient changé de destination pour servir de chiffres comptables. C'est dans la nécessité des échanges et de la mesure de l'échange et de la comptabilité qu'on a inventé les chiffres qui plus tard dériveront en lettres. Les premiers chiffres sont comptables, les premiers écrits en moins 3500, les tablettes sumériennes, les premiers écrits sont comptables. Donc c'est bien le déploiement de la valeur d'échange qui nécessite de produire ces inventions-là. D'accord? Donc ça, c'est quelque chose d'important à avoir en tête. Je reviens sur mes troncs d'arbres. Donc, pour faire simple, on va dire qu'il y a Ben Michel avec sa scie, il peut sortir une planche à l'heure, et Maurice avec son moulin, mais il peut sortir 100 planches à l'heure. Donc on va dire que Maurice, il arrive à produire 100 fois plus que Michel dans une heure. Alors, pour les tatillons, c'est pas on produit 100 fois plus dans une heure de Maurice. Les planches, mais une planche coûtera 100 fois moins que la planche de Michel. Et ça, c'est fondamental à comprendre. Alors, je dis pour les tatillons parce que c'est pas exactement 100 fois moins parce qu'il y aurait l'amortissement du moulin. Bon, mais ça, c'est des détails. On va se parasiter avec. Donc, plus les forces productives avancent, avec mon moulin, je suis largement supérieur à ta scie, je produis 100 fois plus. Mais en produisant 100 fois plus, mais mon coût de production, mais une planche vaut 100 fois moins. Donc, toi, sur le marché, t'es pas compétitif avec moi. Donc, tu vas être exclu du marché. Et celui qui va vouloir être concurrentiel avec moi, ben, il va devoir s'adapter à moi ou me passer devant. Mais on voit bien que si la valeur des planches ne fait que diminuer au fur et à mesure que les forces productives avancent, ben, il y a un moment, il y avait une utilité des besoins réels des planches, mais quand on produit en vue de l'échange, et je vais me mettre à produire et à vouloir produire bien plus que les besoins réels. Et on voit bien que tout ça, si on l'adapte à toutes les sphères de production actuellement, et c'est le cas, c'est-à-dire qu'on produit pour produire, non plus pour les besoins, ça entraîne des surproductions. On peut même dire qu'il y a des gens, au bout d'un moment, si je reste sur mes planches, il y a des gens qui vont avoir intérêt, même des producteurs, à brûler les planches, à détruire les stocks de planches pour pouvoir en reproduire à nouveau. C'est d'ailleurs ça qui fait l'obsolescence programmée. C'est pour ça qu'on peut avoir des projets de production de marchandises qui visent à les produire de façon à ce qu'elles ne durent pas longtemps pour pouvoir les reproduire. Donc on voit bien que cette avancée des forces productives, c'est quelque chose de majeur à retenir. Et cet exemple, il est très limité que je donne parce que les forces cérébrales, c'est des forces productives. Les forces productives, c'est quelque chose de très vaste. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a des catégories de capital constant, capital variable, de capital fixe, capital circulant. Donc il y a une richesse de l'analyse de Marx. C'est pas parce que Marx l'analyse que c'est riche, c'est parce que c'est riche que Marx le décrit. Et il voit cette complexité et il la décrit, il l'accueille. Donc il propose pas de solution, il observe et il rend compte de ce qu'il voit, l'invisible qu'il y a derrière le phénomène. Et ça, c'est quelque chose de très très important à comprendre, cette avancée des forces productives. Je ne sais pas si tu veux dire quelque chose sur les forces productives ou
Vas-y, continue ton idée, vas-y, je t'en prie.
mais
Sinon, j'enchaîne.
déjà le fait de
Vas-y,
comprendre comment.
vas-y.
Donc si je résume, plus les forces productives avancent, moins il y a de valeur dans les marchandises qu'on produit. Plus on est efficace, moins il y a de valeur. Et donc moins il y a de valeur, on voit bien qu'il y a une limite au. Parce que tout ça, on peut pas saisir la baisse tendancielle du taux de profit si on ne saisit pas dès le départ cet aspect-là. il y a cet aspect-là qui est majeur à retenir. Et donc la valeur de ma planche qui diminue avec les forces productives, c'est un atout essentiel, ça. Mais et c'est là où il y a une autre notion que Marx définit, c'est la notion de travail vivant et de travail mort. Alors on parlera après de l'égalité, mais qui est faite par une mesure quantitative, par le temps de travail humain, le temps de travail humain exploité, qui seul produit de la valeur. Si je reste toujours avec mon moulin qui produit des planches, ben les planches, elles vont recevoir de la valeur du moulin. Attends, je vais te laisser, je te donne la parole sur ça.
Non, vas-y, vas-y, je te continue
Parce que
sur.
j'ai la bouche qui sèche.
Ah. Je ne sais pas ce que tu voulais dire sur.
Non, je voulais parler du travail mort et du travail vivant, que seul le travail humain exploité produisait de la valeur et que le moulin qui transmet de la valeur aux planches, mais que la valeur que le moulin transmet aux planches, le moulin aussi, on va dire, il vaut 1000 euros. Allez, on va faire simple. Le moulin vaut 1000 euros. Il va fabriquer 1000 planches. Il va transmettre 1 € à chaque planche. 1000. Si le moulin, il est déficient et dans sa vie, parce qu'il y a des conditions d'humidité, il produit que 100 planches. Bien, le moulin qui vaut 1000, il va transmettre 1000 divisé par 100, va transmettre 10 euros à chaque planche. Donc, un coût de production élevé, donc ces planches seront pas concurrentielles. Si le moulin à vent, avec le moulin à vent, je produis 10 000 planches, mais je vais produire 1000 divisé par 10 000 planches, je vais produire beaucoup de valeur d'usage et chaque planche vaudra 0,10 euros. Ça veut dire que une machine, et ça on le dit, et je pense que c'est très très mal compris, alors je ne sais pas si mon exemple va aider, mais je l'espère, une machine ne transmet jamais plus que sa valeur. Mon moulin, il vaut 1000, s'il produit 10 000 ou 100 000 ou plus, ou 1 million de planches, il ne transmettra jamais plus de 1000. Il transmettra de moins en moins de valeur sur de plus en plus de planches. Donc une machine ne produit pas de valeur. Et pourtant, on a vu que de plus en plus les hommes font appel à la machine et aux machines. Et il y a une contradiction fondamentale qui est toujours, qui va venir être à la base de la baisse tendancielle du taux de profit. Et ce travail mort qu'il y a dans le moulin, c'est pas du travail qui vient du ciel, c'est en fait du travail vivant, c'est-à-dire que le moulin, il vaut ce que les hommes ont coûté la valeur. Le travail vivant qu'il a fallu pour fabriquer ce moulin. Et donc, le travail vivant est devenu du travail mort qui a ensuite été diffusé dans les marchandises. Bon, voilà, je sais pas enfin, j'espère que ça aide un peu à mieux comprendre cette notion de travail vivant et de travail mort. Et c'est pour ça que quand on parle de travail mort, qui a un lien avec la plus-value relative, c'est dans la domination réelle supérieur en 1914, on dit que le travail mort surdétermine le travail vivant. Ça veut dire que la plus-value relative, c'est-à-dire relative au travail machinique, prend le dessus sur la plus-value sur le travail vivant. Et ça, si je le ramène à ce qui se passe maintenant, que ce soit dans l'agriculture, dans tous les aspects de la vie, on voit qu'il y a une machinisation qui détruit les mondes, qui détruit les hommes. L'homme qui se servait de l'outil de la machine pour mieux vivre devient phagocyté, devient mangé par la machine. Tu as parlé tout à l'heure des ludistes qui s'en prenaient aux machines. Et c'est vrai. Mais même maintenant, il y a des gens qui pensent que dans les campagnes, les tracteurs grossissent et que c'est la faute aux gros tracteurs. Le gros tracteur n'est que la manifestation phénoménale de ce travail mort qui phagocyte le travail vivant. Voilà, je te repasse la parole sur ces explications qui seront à peu près claires, j'espère.
C'est un truc qu'on répète depuis longtemps. Alors je sais que c'est difficile. Bon, tu l'as expliqué d'une façon. La façon la plus courte de le dire, mais c'est ce que je disais tout à l'heure, je crois, sur le fait qu'on peut faire travailler un humain au-delà de son nécessaire. Une machine, il y a une illusion sur la machine parce qu'elle bouge. Et le fait qu'elle bouge cache aux gens que c'est un objet inerte. Le mouvement de la machine, c'est le mouvement du travail humain qui la met en mouvement. Si je crois dans une autre émission, j'avais fait le détail. Si on prend, si je veux creuser un trou dans un champ avec une pelle, on voit bien que c'est moi, même si j'ai une pelle et qu'avec la pelle, je vais creuser beaucoup plus vite que si je me mets à gratter le sol avec mes ongles, mais on voit bien que c'est moi qui creuse. À la seconde où je lâche ma pelle, elle tombe et ça creuse plus. Tout dépend de moi, même si la pelle me permet d'être plus productif, tu parles de force productive, être plus productif que si je creusais avec mes doigts. Mais si je me mets, si je veux moins me fatiguer, si je veux essayer de trouver un appareillage moins, un peu compliqué, mais qui va m'économiser de la fatigue, je peux m'imaginer un bordel à poulie, je ne sais pas, une machine compliquée, avec à la fin une petite manivelle qui fait que je creuse. Au bout, il y a la pelle et je creuse au lieu de forcer en tournant une petite manivelle. Si je prends cet exemple-là, on voit encore que c'est moi qui active. Au moment où je lâche la manivelle, mon truc compliqué s'arrête. Mais l'illusion se met à arriver au moment où, à la place de ma manivelle, je mets un moteur. Je mets un moteur et là, je peux me barrer le temps que le moteur tourne, parce que le moteur, il a une limite lui aussi, que je lui ai mise par mon travail. Et à partir du moment où je peux me barrer, il y a l'illusion fantasmatique que ce machin qui bouge apparemment tout seul produit des choses. Or, effectivement, dans le phénomène immédiat, il y a un machin qui tout seul produit des choses. Mais il produit des choses parce que mon travail manuel et cérébral a appareillé toute cette chose compliquée qui permet de faire la même chose que ce que je faisais au début avec ma pelle et éventuellement avant, grattant le sol avec mes doigts. Mais du début jusqu'à la fin, il n'y a que du travail humain. Donc là, il est accumulé dans une machine, mais il n'y a que du travail humain. Alors le truc, c'est que pour revenir à nos proudhoniens de maintenant, pourquoi tout le monde est proudhonien en fait? C'est vraiment une question de matérialité sociale. Et d'ailleurs, tous les proudhoniens actuels ne parlent jamais de valeur, de baisse du taux de profit, de crise terminale. Tout ça n'existe pas. Tout au plus, ils sont passionnés par les événements géopolitiques, les vaccins, le Covid, tout ce qu'on veut, éventuellement les grèves quand il y en a, mais ils sont incapables d'expliquer pourquoi tout ça survient. Tu disais tout à l'heure, tu parlais que les idées étaient une force productive. Les idées sont des forces productives qui rétroagissent sur la matérialité sociale, pardon, mais elles sont le produit de la matérialité sociale. Tout est matérialité sociale. Les forces productives, ce qu'on décrivait avec nos machines compliquées tout à l'heure, et les idées des hommes. Tout est matérialité sociale. Le problème.
Sur ça, pour
Vas-y.
un exemple concret sur ça, matérialité sociale, les idées, l'abolition de l'esclavage, enfin, comme le dit Marx, c'est il y a les États du Nord dans la guerre de sécession, les États du Sud, ce qui abolit l'esclavage, c'est pas l'idée des gens du Nord qui seraient pris d'une empathie particulière vis-à-vis des esclaves, c'est dans le déploiement de la valeur d'échange. On a parlé des forces productives, on a parlé de moulins à vent, mais après il y a la machine à vapeur. Et c'est la machine à vapeur qui va, parce que il y a une augmentation des forces productives, que on l'expliquera après, mais que le salariat est une forme supérieure par rapport à l'esclavage en termes d'extorsion de plus-value. Et c'est parce qu'il y a cette matérialité-là que ça va influencer même l'idée des gens et la sensibilité des gens, et que des gens vont se dire, mais c'est affreux l'esclavage. Mais en réalité, il y a une matérialité de production, de rentabilisation supérieure de la valeur d'échange qui va modifier la sensibilité et l'idée des gens. Et ça, juste, et je te rends la parole, dans l'idéologie allemande, texte de 45-46 qui aura été publié que dans les années 1930, je crois, il y a cette phrase, entre autres, puissante, qui dit que la classe qui détient les moyens de la production matérielle détient les moyens de la production spirituelle, c'est-à-dire détient la production des idées. Donc je te rends la parole, tu étais sur ça, sur matérialité sociale qui produit les idées.
Oui, un homme n'a l'idée que de sa matérialité sociale. Pourquoi aujourd'hui des gens se réintéressent au débat Proudhon-Marx et republient ça, donc a priori lisent la partie Marx de ce débat-là, et continue à penser qu'il y aurait des choses à tirer de Proudhon. C'est pas un défaut, c'est pas un défaut d'intelligence. Tout ce que je pense n'est que le résultat de mon rapport social. Si je me suis construit au fur et à mesure des années dans un rapport social où j'ai rencontré des gens, dans un projet politique particulier que je veux faire vivre, etc. Marx, il arrive là à tout péter, parce que si je l'accueille, j'accueille aussi le fait que toute ma démarche politique depuis des années et des années n'a aucun sens. Donc Marx, il devient insupportable. Et c'est pour ça que des gens qui ne sont pas bêtes peuvent lire Proudhon. Moi, j'invite à lire, tous ceux qui nous écoutent, à lire vraiment Proudhon, Philosophie de la misère, et à lire ensuite Misère de la philosophie. Ça saute aux yeux immédiatement. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui manipule une matière abstraite sous des airs compliqués, mais ça ne vient nulle part. Il y a quelqu'un qui ramène à la réalité matérielle du mouvement de l'histoire, concrète. C'est-à-dire comment les hommes font les hommes chaque jour. Et ça se développe dans l'histoire. Donc, si j'accueille ça, je dois, ou plutôt, je dois, pour être en capacité à accueillir ça en idée, être en capacité d'accueillir le résultat pratique que cet accueil va générer chez moi. Les engueulades avec mes camarades, le besoin de partir et de me retrouver tout seul. Et il y a tout un tas de choses qui font que les gens sont obligés, tout simplement aujourd'hui, de continuer à faire des vues sur YouTube. Les gens sont obligés d'avoir une limite à leur pensée, parce que l'au-delà de la limite amène force, nécessite au préalable l'acceptation d'un au-delà de ma pratique sociale. Et c'est pour ça que Marx est prêt à sacrifier sa pratique sociale possible. Il aurait été un grand philosophe s'il avait voulu en Allemagne, vénéré, adulé, avec tous les honneurs qu'il veut, etc. Mais Marx, il veut le vrai, quitte à perdre ce qu'il a à perdre, et à se retrouver tout seul, et à mourir quasiment seul. Ce qui fait que les gens n'accueillent pas ça, c'est uniquement, c'est toujours, il n'y a rien d'autre dans la vie que la matérialité sociale. Il n'y a rien que ça. Tu voulais réagir là-dessus?
Ouais, enfin non, c'est évident qu'il y a quand on parle de maintenant, j'ai parlé tout à l'heure des économistes vulgaires, mais je veux dire, il y a aucun débat qui va venir sur ça, sur l'argent, sur le fondement de l'argent. Tout le monde va parler de l'offre et de la demande. Au mieux, c'est ça, et c'est là où où le travail de Marx dès le départ est remarquable, et c'est le moment de parler de l'égalité, de définir ce que c'est que l'égalité, afin que les auditeurs puissent mieux saisir, peut-être pour ceux qui n'ont pas encore lu Philosophie de la misère et Misère de la philosophie, pour qu'on voit ce que tu as défini comme la pauvreté d'un côté, qui repose beaucoup sur des formules qui reposent sur pas grand-chose, avec l'aspect le plus puissant, ça a été de décrire le droit d'aubaine, hein, l'obélisque de Louxor, par rapport à la richesse et la pertinence de Marx. Et pour ça, il y a un terme qui est fondamental et que Proudhon met souvent en avant, c'est le terme d'égalité. Et ce terme, il est important à définir, parce que maintenant, il y a beaucoup de gens qui peuvent écrire sur l'égalité. Il y a beaucoup de gens qui parlent du monde de la quantité. De plus en plus de gens parlent de la société de l'avoir, parce que instinctivement, même si on ne saisit pas tout ce qui se passe, on sent bien qu'il y a un problème. On met des mots dessus, mais on ne le caractérise pas. On va pas, on tire pas le fil jusqu'au bout. De la profondeur de là où c'est parti. Donc juste rapidement sur l'égalité, pour rappeler dans Marx, qui fait appel à Aristote et qui lui rend hommage. Aristote dit, quand on parle de valeur d'échange, le préalable c'est l'échange. Et Aristote s'interroge et dit qu'il ne peut y avoir d'échange sans égalité. Alors, on ne se rend pas compte de ça, parce qu'un échange, un petit échange, bon, mais si le mode de production se globalise, forcément, on va pas échanger quelque chose qui représente une semaine de travail avec quelque chose qui représente 5 minutes. L'échange va s'imposer dans l'immanence. Il va pas y avoir des gens qui vont chronométrer. Il va y avoir une mesure de l'échange. C'est pour ça qu'Aristote dit qu'il ne peut y avoir d'égalité d'échange sans égalité, et il ne peut y avoir d'égalité sans commensurabilité, sans mesure. Et qu'est-ce qui va faire la mesure? C'est le temps de travail. Et là, on va retrouver les économistes classiques, Smith, Ricardo, entre autres. Mais Marx ne va pas aller un peu plus loin qu'eux, puisque effectivement, il y a le temps de travail. Mais Marx, et on va en revenir à la valeur exploitation, va voir que là se joue l'exploitation. La valeur d'échange, c'est l'exploitation. L'exploitation, c'est la valeur d'échange. Et ça, c'est déjà là en germe dans le premier échange. Et ça, toute l'histoire le montre. Et Marx, dans les Gronderies, le définit très bien quand il définit que l'autre dans l'échange, je suis pas là pour assouvir, pour aider l'autre, même s'il peut y avoir cette apparence, l'autre est un moyen pour moi d'assouvir mon intérêt égoïste. Parce que si au bout dans un moment les échanges ne correspondent plus, je peux ça va prendre une forme négative tout ça. Donc il y a une mesure de l'égalité qui va faire l'égalité, c'est le temps de travail humain exploité. Et cette égalité, pour qu'elle ait lieu, pour que l'échange ait lieu, et c'est l'interrogation d'Aristote qui se dit mais comment on peut échanger 5 lits contre une maison? Donc au final, pour qu'il y ait échange, il faut qu'il y ait une quantité, mais cette quantité, elle doit faire abstraction des qualités des produits que l'on échange. Donc, il y a une égalité qui est quantitative. Donc, je vais pas faire le chapitre heure, mais c'est vraiment ça. Il y a une égalité quantitative constituée par un rapport social d'exploitation. L'échange, c'est un rapport entre deux individus. C'est un rapport de société, et dedans il y a l'exploitation dans l'échange, et ça dans la tête des gens c'est on dit non, parce que on pense que si on n'échange pas on pense qu'on fait rien. Non, un échange, il y a une condition. On peut produire ensemble, on peut faire circuler, distribuer les choses sans qu'il y ait l'échange qui régisse tout. Donc il y a cette égalité qui est un concept capitaliste. Quand on dit liberté, égalité, c'est capitaliste. La liberté, c'est la liberté du commerce. La Révolution française, c'est la liberté du commerce qui va, la loi Le Chapelier qui va empêcher les êtres humains de se regrouper pour pas que les êtres humains fassent un frein au déploiement de la valeur d'échange. Donc tout ça, c'est quelque chose d'important. Et je reviens sur cette égalité, ou donc reviens toujours sur cette égalité. Et c'est là quelque chose de fondamental quand il dit que l'égalité n'a pas pu triompher par l'épée, donc elle triomphera par la parole. Il veut cette égalité sans voir, mais lui, comme tout le monde est maintenant, sans voir que l'égalité est un concept capitaliste. Et Proudhon, dans son livre et dans la réponse de Marx à Proudhon, il y a cette citation qui a dû passer en début d'émission, où Marx nous dit il ne faut pas dire que une heure d'un homme vaut une heure d'un homme. Ça veut dire que quand on échange une heure contre une heure, en réalité, au bout du bout, dans le long processus historique, il dit qu'il faudrait dire que c'est un homme d'une heure qui va s'échanger contre un homme d'une heure. Ça veut dire que l'homme est bouffé par le temps. Il est bouffé par le temps. D'ailleurs, il poursuit en disant l'homme devient la carcasse du temps. On est écrasé par le temps. Si dans la société de l'avoir, dans des conditions matérielles extraordinaires, des gens peuvent avoir beaucoup à manger, et pourtant, il y a un tel mal-être qu'on a de plus en plus de suicides. Tout ça, ça découle du monde de la quantité qui écrase les qualités. Et d'ailleurs, dans cette citation, il dit, après avoir dit que l'homme est la carcasse du temps, il dit que la quantité, il n'y est plus question de qualité, la quantité seule décide de tout. Et dans cette phrase, donc c'est 1847, il y a... c'est pas une phrase poétique, c'est ça qui est, c'est que après Marx caractérisera cela de façon très profonde en le décrivant parfaitement, et c'est quelque chose qui, une fois que c'est saisi, ça, bien effectivement, comme tu l'as dit, la comparaison, il y a pas de comparaison, mais donc on n'est pas là pour jeter la pierre à Proudhon, c'est que maintenant quand on parle de cela, Tout ça, c'est hors du champ de la discussion. Et même des économistes qui se disent dissidents, qui passent pas forcément à la télé, mais dans la dissidence, tous les économistes sont vulgaires. Donc voilà ce que je voulais dire par rapport.
C'est très juste ce que tu dis, mais aujourd'hui, sans publier des livres entiers sur la question de l'égalité, mais il n'y a jamais un bouquin qui sort sur la question de l'équivalence. Or, ce qu'on disait tout à l'heure sur la matérialité sociale, l'égalité, c'est la projection idéale d'une matérialité sociale basée sur l'équivalence. L'égalité, ça n'existe pas avant la Révolution française. Ça devient central au moment de la révolution capitaliste, mais c'est pas parce que on voudrait que des gens aient accès à une vie meilleure. C'est qu'on veut que les gens ne soient rien d'autre que ce que tu dis là, la carcasse du temps. Mais les proudhoniens d'aujourd'hui, ils ne peuvent raisonner que sur l'égalité. Mais à quoi ça sert de raisonner sur l'égalité? Ça sert à rien du tout. Ce sont des réformateurs du capital. Qu'ils se disent socialistes ou pas ne change rien. Toutes les catégories du capital, Proudhon les éternise, les néo-proudhonistes d'aujourd'hui les éternisent. La question, c'est toujours revenir, et c'est vraiment clé méthodologiquement, à la matérialité sociale. Toujours. Que ce soit sur la question des religions, pourquoi une religion avec un dogme spécifiquement déterminé intervient dans un endroit déterminé à un moment déterminé? Pourquoi tel dogme et pas tel autre? Pourquoi tel interdit et pas tel autre, etc. Ces choses-là, c'est la mise en forme idéale d'une nécessité pratique. Toute vie est essentiellement pratique, dit Marx dans Les Thèses sur Feuerbach. Et ça, c'est très important. Et on parle de valeur, mais Marx, avant d'attaquer la question économique, entre guillemets, qui n'est pas qu'économique, c'est la réalité du monde dans sa totalité. Mais il a dû se clarifier sur la méthode. Tous ses premiers écrits des années 1840, c'est des années de radicalité où il parle pas encore de baisse du taux de profit, la valeur, ça va venir, etc. Mais il arrive à poser déjà un abat l'État, un abat l'argent, un abat le travail, on en parlera tout à l'heure, dans ces années-là. Parce que la clé de mon raisonnement, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est ma matérialité sociale et donc c'est mon désir dans mon rapport au monde. Si je ne me vis, comme tout le monde aujourd'hui, si je ne me vis que comme une quantité marchande qui voudrait être mieux valorisée au travail ou qui voudrait être valorisée dans ses rapports affectifs, familiaux, sexuels, amoureux, etc., ben, je n'ai aucun besoin d'abolir quoi que ce soit. Et le problème, c'est que, évidemment, les gens vont nous expliquer que ben, les gens, ils désirent pas ça. Mais le désir des gens est lui-même une matérialité sociale, historique et déterminée. Alors, la question, c'est pas tellement. Par exemple, quand on s'adresse à un gilet jaune, c'est pas de tenir en compte de ce qu'il pense tout de suite, c'est déjà de lui dire ce qu'il va être contraint de penser demain. Et surtout que quand il demande plus d'égalité, c'est le premier producteur de capitalisme comme idéologie dominante, permanente. Et la liberté, comme tu le disais, c'est pareil. En Europe, on a la liberté de circulation des marchandises, des capitaux et des humains. Mais les humains, ici, ils ont le droit de circuler en tant que quoi? En tant que producteurs, donc ils peuvent aller produire ailleurs. Et puis en tant que touriste consommateur des marchandises produites ailleurs. Et puis éventuellement en tant que travailleur qui travaille dans la circulation, les chauffeurs, etc. Mais le capital ne laisse circuler que des marchandises sous différentes formes. Et donc la clé, si cette émission peut servir à quelque chose, c'est qu'on ne peut pas penser l'humain avec des catégories de l'inhumain. Tous les chapitres de Proudhon dans Misère de la philosophie, ils prennent une catégorie de l'inhumain et ils cherchent à l'humaniser. Le crédit devient positif chez Proudhon parce qu'il devient gratuit. Mais ce que vient d'expliquer Maurice sur la valeur d'échange n'a pas disparu parce que le crédit devient gratuit. Le problème de la vie inhumaine, c'est pas que le crédit est payant. J'ai eu la chance, façon de parler, récemment, de croiser un vieux fossile du PCF qui parcourt la France pour expliquer. Il parcourt la France avec un t-shirt Réseau Salariat pour expliquer aux gens, tout en ne citant pas Proudhon une seule seconde et en citant Marx sans arrêt, parce qu'il est marxiste, et on verra d'ailleurs que le marxisme est un proudhonisme. Il explique aux gens l'État communiste, le salariat communiste, l'argent communiste. Et il n'arrête pas de citer Marx. Le débat Proudhon-Marx, ce n'est pas le débat proudhonisme-marxisme. Tous les marxismes sont des proudhonismes. C'est le débat entre le réagencement de la vie aliénée, exploitée, et l'abolition de cette exploitation et de cette aliénation pour retrouver une vie humaine. Et on peut pas retrouver, et on retrouve ça dans les rapports affectifs partout. Quelqu'un qui dit ouais, bon, ce que vous dites, c'est bien gentil, mais c'est pas possible, bon, parce que les gens travaillent pas, et qui veut donc un meilleur salaire, par exemple. Il se comporte exactement pareil en amour, par exemple. Il ne va pas questionner le fond originaire de son rapport amoureux avec la femme avec qui il est et de ce rapport qui ne fonctionne pas. Il va réagencer ce rapport de mille façons, il va chercher des idées, et puis ensemble, ils vont essayer de trouver un moyen de réagencer ce qui ne fonctionne pas dès le départ parce qu'il ne comprend pas pourquoi il s'est mis avec cette femme. Mais c'est lui, en tant que marchandise. Alors on est une force de travail au travail, mais on est une marchandise symbolique, narcissique le reste du temps. C'est lui, en tant que marchandise narcissique, a rencontré une marchandise narcissique et qui essaie de perpétuer ce rapport de valorisation. Et les humains ne sont plus que ça. C'est-à-dire que un humain ne s'anime que dans le rapport de valorisation. Donc que ce soit au travail, après il sort du travail, donc c'est dans l'acte d'achat. Et puis, ça va être dans ce qu'il va lire, non pas dans le désir de trouver la vérité absolue, avec un grand A, mais de trouver des choses à dire au repas du midi le lendemain pour flamber un peu personnellement. Tout est fondé sur la valorisation et donc sur la marchandise. Tout.
Sur le mot valorisation dont tu parles, c'est vrai que c'est difficilement perçu à la rigueur, on va dire, il se valorise parce qu'il se met en avant, parce qu'il veut qu'on parle de lui, mais il y a la même chose sur celui qui veut se valoriser en ne montrant pas qu'il n'a pas quelque chose à dire, c'est-à-dire qu'il va se taire. C'est-à-dire la valorisation, c'est pas que ce qui se mettent en avant, elle touche tout le monde. C'est même celui qui est Marx parlait de l'avare comme de celui qui veut comme le dépensier. C'est une forme de la valorisation à un seuil et sous une manifestation différente. Et pour la valorisation, quand tu parles de valorisation, c'est pas que l'envie de briller, c'est aussi la peur de se montrer, la peur de se manifester. Tout ça peut être sur le terrain de la valorisation. Et pour pas oublier, non, non, pour pas oublier, on a parlé de liberté, d'égalité, et on peut pas ne pas parler de fraternité. Juste rapidement, la fraternité, on va dire, mais c'est quoi le pourquoi liberté de la valeur d'échange? Oui, égalité de la valeur d'échange, bien sûr, c'est le point de départ, l'égalité quantitative qui détruit les qualités, qui rend indistinct ce que l'on échange et qui crée l'indistinction des hommes et de la société de l'indistinction. Et la fraternité, c'est de penser que le commerce qui est une catégorie éternisée par Proudhon, comme la concurrence, comme d'autres catégories, c'est de penser que le commerce amène la paix. Voilà, le fait que le commerce amène la paix, c'est fondamentalement faux. On dit souvent que la guerre militaire est la poursuite de la guerre commerciale. Mais la guerre commerciale, ça a un autre nom. Ça s'appelle la paix. La paix, il y a du commerce. Alors, le commerce, il peut être gentil, souriant au début, mais les conditions se durcissant, les forces productives augmentant, la concurrence augmentant, mais le commerce, il devient de plus en plus difficile à réaliser. Il y a de la surproduction parce que les forces productives font que l'on ne produit pas pour les besoins humains, mais en vue de l'échange. Et ça engendre des conflits, il y a des concurrences géopolitiques. Donc la paix, c'est la guerre, c'est la paix. On le répète, mais que les auditeurs qui découvrent l'émission entendent ça et ils le réentendront parce que quand dans nos manifestations, nous disons à bas la paix, à bas la liberté, à bas la démocratie, c'est pas des mots pour provoquer ou des déclamations d'utopistes, c'est une réalité des profondeurs de ce qu'est réellement le mouvement de l'histoire. La fraternité, c'est la fraternité de la valeur d'échange, mais qui contient en germe toutes les horreurs du capital. Un mot sur, tu as parlé de ton
Ah,
crédit. Bon, on va pas développer, on ne peut pas savoir ce que tu as acheté ou je sais pas. Sur le crédit, il y a une citation qui est pas directement en lien avec ça dans Misère de la philosophie. C'est quand Marx parle des souverains, quand il dit vraiment, il faut être dépourvu de conscience historique pour penser que ce sont les souverains qui se sont imposés aux conditions économiques. Il dit que c'est bien les conditions économiques, bon, si on simplifie, la monnaie qui s'impose aux souverains. Moi, je sais, pendant longtemps, j'ai délivré la bonne parole qui était totalement fausse de dire que le souverain frappait la monnaie et qui s'imposait par la monnaie. En réalité, c'est la monnaie qui s'impose aux souverains. Et ça, Marx le dit de façon métaphorique, toujours dans Misère de la philosophie, mais ça s'avère une réalité qui décrira plus tard et qui est déjà dans la compréhension du matérialisme tel que l'a décrit le groupe Marx-Engels dans l'idéologie allemande. Et un mot sur ce crédit, Proudhon veut, comme tu l'as dit, un crédit à taux quasiment zéro. De la même façon que plein de gens veulent récupérer la souveraineté, c'est-à-dire qu'il y aurait un souverain, il serait pas bien, il faut que ce soit le peuple qui récupère la souveraineté, et pour cela, il faudrait récupérer la souveraineté monétaire. Mais ça, c'est bien l'ignorance de ce qu'est, c'est l'ignorance totale de ce qu'est l'argent, et ça va aussi avec le fait de penser les intérêts surgissent comme ça, de nulle part. Les intérêts, c'est le prolongement du capital. Ça fait partie du déploiement, la fictivité du crédit. Il faut qu'il y ait une base réelle pour qu'après, il y ait du fictif. Mais le fictif n'existe pas en lui-même. Il y a une logique. Et si on prend une photo de la création monétaire, on peut se faire de fausses images. Moi, je sais que j'ai eu de faux repères à penser qu'on crée de l'argent à partir de rien parce que au moment où on va à la banque, quand le banquier nous envoie un clic, je sais pas moi, 10 000 euros pour une belle voiture, il y avait rien. Hop, maintenant il y a. Donc c'est une anticipation de plus-value à venir, mais de valeur à réaliser, pardon, pas de plus-value, de valeur à réaliser par le travail. Mais tout ça, il y a une histoire. Et si on saisit pas cette histoire dès le départ, on ne comprend rien et on recompose en permanence. Donc voilà, je voulais finir sur dire un mot sur la fraternité et sur cette citation dans Misère de la philosophie concernant le côté souverain. Et souverain qui voudrait récupérer la création monétaire. Voilà. On voit de plus en plus de gens qui vont nous parler de souverainisme parce qu'on sent les méfaits de la mondialisation actuellement. On les sent de plus en plus. Alors, on se dit, on veut se réfugier dans l'État. Voilà. Mais l'État, c'est dans le déroulé de la valeur d'échange, l'État, ben c'est, bon, on l'a déjà dit plusieurs fois, mais c'est une formalisation administrative de coercition qui est le résultat d'un déploiement de la valeur d'échange.
Les humains sont donc tellement devenus eux-mêmes des choses en circulation que si vous faites la critique de... tu m'entends?
Oui,
Ça,
ça a
ouais,
coupé un peu, mais c'est bon, c'est bon.
Si vous faites la critique de ces trois termes, liberté, égalité, fraternité, nous on a eu l'exemple pour la liberté parce qu'on s'est baladé un peu dans des manifestations à l'époque du vaccin anti-Covid, là, obligatoire. Les gens s'en vont debout sur des questions de droit. Est-ce qu'on peut m'obliger à me vacciner ou pas? Ils s'en vont debout sur des questions de biologie, qu'est-ce qu'il y a là-dedans, etc. Mais si vous allez les voir pour leur dire ah bah la liberté, nous on se faisait accueillir, alors on s'est pas fait agresser, mais les gens s'en heurtaient. Les gens se heurtaient. Et l'égalité, c'est pareil. Si vous dites la belle égalité à quelqu'un, pourtant il va de soi. Marx en parle dans la critique du programme de Gotha. J'imagine que tout le monde s'est déjà dit que c'était spécial d'un point de vue humain que quand on se retrouve au restaurant, je ne sais pas, un homme de 80 kilos, je sais qu'il y en a, Maurice, qui font plus que ça, mais un homme de 80 kilos en face d'une femme de 50, on leur sert au même prix, la même quantité, la même nourriture, indistinctement de leurs besoins réels. Mais ça choque personne, parce que c'est devenu la logique, l'égalité. L'égalité, ce n'est pas un problème d'idée, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Il est évident que ce plat, c'est une certaine quantité de travail accumulé. Et indistinctement, les humains étant eux-mêmes que des forces de travail indistinctes, eh bien, on leur distribue la même quantité du même plat. Mais alors après, il faut revenir toujours à. Non, je crois qu'on n'a pas mis la citation à la question de l'origine. Parce que, y a une citation de Hegel dans la Phénoménologie de l'esprit sur la question du commencement qui est résultat, c'est ce qu'il dit, le commencement est résultat parce qu'il est but, parce qu'il est but dès le début. Le pro-dionisme essaie de se dépêtrer pour arranger le commencement, qui lui suit sa logique irréfragable et il ira jusqu'au bout de sa logique. Au lieu de comprendre la logique qui mène du début de l'histoire, en l'occurrence de la valeur d'échange, et puis plus tard du début de cette forme particulière qui est la valeur d'échange pure, on pourra dire à partir du capitalisme, au lieu de comprendre que cette logique du début ira jusqu'à sa fin et que si elle est inhumaine, je dois m'y opposer radicalement dans sa totalité, parce qu'elle-même est une totalité, les gens essaient de corriger des instants. De ce cheminement qui, je donnais un exemple du couple tout à l'heure, c'est pareil. Un couple réalise sa logique sur une durée déterminée. Alors, il y a des couples de 2 mois, il y a des couples de 2 ans, il y a des couples de 20 ans, il y a des couples qui durent toute une vie, mais ils réalisent une logique, un rapport social d'implication réciproque sur un mode spécifique. Si la logique du début est complètement aliénée, narcissique, c'est ça qui va se développer jusqu'à la fin, sauf s'il y a une réaction radicale contre cette logique qui pose un nouveau début et qui donc va réaliser une autre fin. Mais tant que je chamboule pas radicalement ce début, rien n'est possible. Et donc, je répète, mais c'est pas parce que les gens se trompent, comme Proudhon et puis les proudhonistes de maintenant, c'est pas qu'ils se trompent sur les concepts, c'est qu'au fond, ils ont la nécessité de se tromper sur les concepts parce qu'ils ne veulent pas changer la vie.
Oui, parce que ça tue, ça invaliderait, et c'est un processus qui est puissant parce que les gens n'ont pas le recul sur eux-mêmes pour le voir, parce qu'il faut aussi une forme de courage pour, je sais pas moi, si j'ai passé 40 ans de ma vie à militer pour tel type de contre-projet à ce qui se fait maintenant, et que je vois et que je suis amené à rencontrer la route de la critique radicale qui me montre que ce qui m'a motivé, ce qui m'a fait créer des liens humains, ce qui m'a fait exister aussi, ce qui m'a fait me valoriser. Ça veut pas dire que j'en ai conscience et que je cours après l'argent, mais il y a une forme d'existence et de valorisation, une forme de narcissisme, même chez des gens très gentils, qui font que ça empêche de regarder la réalité. Et ça les fait continuer dans une fausse route. Et c'est ça qui est surprenant parce que il y a tout un tas de braves gens. Il y a pas que des braves gens, mais il y a des gens qui paraissent très sympathiques et on est surpris, surtout quand ils ont croisé la route de la critique radicale, qui ne saisissent pas ça pour aller plus loin. On est surpris dans un premier temps, mais par rapport à ce que tu viens de dire, il y a un réflexe de protection qui est très prégnant, qui fait qu'il y a une nécessité pour continuer à exister dans le monde dans lequel ils ont évolué jusqu'à présent, mais pour ne pas regarder ça réellement. Et ça, c'est important parce que bon, je peux avoir 80 ans, m'être trompé toute ma vie, ça ne veut pas dire que ma vie a été catastrophique, j'ai eu des relations humaines, on est tous aliénés, mais à partir du moment où je décide de mettre un doigt sur le chemin du vrai, quelque part, je me mets en mouvement d'infini, c'est-à-dire que je me reconnecte au vrai. Voilà. Et donc, alors il faut une forme de courage, mais il y a pas d'âge, parce qu'il y a des gens qui vont me dire, oh, j'ai 60 ans, mais on s'en fiche. La personne qui veut regarder sa vie pour ce qu'elle est, elle ne fait que lui donner d'autant plus de valeur. Donc, par rapport à ce que tu dis, c'est important d'insister là-dessus, parce que énormément de gens sont prisonniers de ça.
Et pour revenir à nos proudhoniens, ils sont prisonniers, comme Proudhon finalement, de leur prétention individuelle, qui n'est rien d'autre que la prétention de l'individu narcissique créé par ce système qu'ils essaient faussement de combattre. Par exemple, alors Proudhon, évidemment, il n'y a pas de crise. Aujourd'hui, les gens constatent qu'il y a des crises, ils sont obligés de le constater, mais il n'y a jamais de recherche sur la crise, de questionnement sur la crise. Et si on se questionne sur la crise, on va commencer à aller chercher les auteurs qui en ont parlé. Et d'une façon ou d'une autre, on va finir par tomber sur Marx. Mais pourquoi ils ne cherchent pas de résultats sur la crise? Pourquoi ils ne posent même pas la question de la crise? Ben, Proudhon pose la question, qu'est-ce que la propriété? Ce qui est une question qu'on pourrait dire superflue, parce que la propriété, c'est un rapport juridique. Ça intervient. C'est de la superstructure en quelque sorte, ça intervient dans un second temps. La question, c'est la question des moyens de production et de l'exploitation. Ce n'est pas la question de la propriété. Et pour la crise, c'est pareil. Pourquoi tous ces gens ne se demandent pas, mais qu'est-ce que la crise? Et pour la raison qu'on explique depuis tout à l'heure, si je me demande qu'est-ce que la crise, je suis obligé de questionner la logique de la crise et de revenir à l'origine de cette logique qui va mener nécessairement à cette crise et surtout de me positionner dans mon rapport à l'existence par rapport à ce que j'aurais compris. Et donc, même des extrêmes gauchistes qui, il y a 50 ans, avaient des questionnements sur le salariat, l'État, la crise, etc., plus personne, donc tout le monde est proudhonien, absolument tout le monde, pas seulement les libertaires, les anarches, tout le monde, les droitards, les gens qui essaient de prendre un peu de droite et un peu de gauche, comme on essaierait de prendre un peu de Proudhon, un peu de Marx, bien, tout le monde veut réagencer un truc, non pas, c'est comme un jeu, c'est presque comme un jeu sportif, c'est non pas pour changer quelque chose au regard de la matérialité sociale réelle, mais pour participer à un jeu qui, pour plein de gens, est plus excitant que le foot le week-end ou de passer son temps au cinéma ou je ne sais pas. Le but n'est pas le vrai.
Ce que tu viens de dire là, tu as dit qu'il y avait des gens qui voulaient prendre un peu de Marx pour le composer avec un peu de. Enfin, il y a, on voit, on a souvent ça aussi en retour. Mais pourquoi on prendrait pas? Alors c'est très innocent de dire ça. Pourquoi on prendrait pas un peu de là avec un peu de là et puis tout le monde serait content? Mais tout ça correspond à rien par rapport au mouvement réel. On ne peut pas abolir totalement l'économie et d'un côté vouloir poursuivre l'économie en parlant d'économie solidaire, économie verte, économie alternative, économie ce qu'on veut. C'est l'abolition est totale, ou alors on poursuit l'économie, mais vouloir faire une synthèse là où il y a une opposition totale, d'où le titre de l'émission. Mais là aussi, c'est montrer qu'on n'a pas assez creusé ce qu'est la radicalité de l'abolition de l'argent, que ce n'est pas quelque chose d'utopique, que c'est la destinée vers laquelle l'on va, vers la crise terminale du capital dans sa phase réelle. dans sa phase réelle.
C'est une question de courage. Je crois qu'on avait déjà parlé dans une émission, mais quelqu'un comme Proudhon a eu du courage. Je crois qu'il s'est retrouvé en prison. Et, on peut avoir du courage et se tromper. Mais Proudhon, qui a eu du courage physique, disons, mais je crois que c'est ce que Marx lui dit dans le Misère de la philosophie,
Oui,
il
il
n'a pas le
parle de la
courage.
liberté.
Il n'a pas le courage de chambouler son horizon, qui demeure l'horizon bourgeois, disait-il à l'époque, mais qui serait pour nous aujourd'hui l'horizon capitaliste. Il y a plein de gens qui sont prêts, je parle des proudhonistes qui ont des projets politiques, tu parles des souverainistes, on parle, tous ceux qui ont des projets politiques, ils sont prêts, très souvent, à avoir le courage de mettre leur intégrité physique en danger. Et d'ailleurs, les Gilets jaunes l'ont fait massivement. Après être réprimés de semaine en semaine, ils y retournaient. Mais il y a un courage qui est plus. Et certains le payaient au prix cher. Mais il y a un courage qui, malgré les apparences, est beaucoup plus compliqué que celui-là. C'est de chambouler son horizon par rapport à tout ça. Le physique, contrairement à ce qu'on croit, c'est pas le plus dur de se mettre en situation d'opposition physique. Je sais que je parle à un rugbyman, mais il y a des gens qui sont capables de s'opposer physiquement et qui rampent au travail devant leur chef et qui sont absolument incapables de changer leur rapport au monde. Et là, on revient sur Clausewitz, je crois qu'on l'a mise au début de l'émission, en exergue. Clausewitz, c'est une citation de La Guerre où il explique que qu'il n'y a rien de plus important dans la vie, c'est fort, comment, il n'y a rien de plus important dans la vie que de trouver exactement le point de vue d'où les choses doivent être appréhendées, envisagées, jugées, etc. Donc, doivent être envisagées, jugées. Il dit pas, il n'y a rien de plus important dans ma vie narcissique de trouver la façon dont je veux regarder les choses personnellement pour être satisfait dans ma vie individuelle. C'est ça qu'il dit. C'est, il n'y a rien de plus important dans la vie que de saisir comment il faut nécessairement regarder les choses à partir du moment où je veux les voir dans leur vérité. Et comme il n'y a rien de plus important, ben il n'y a rien de plus dur. Et il y a donc des gens qui sont prêts, qui ont le courage physique, qui peuvent même se sacrifier et mourir pour des idées politiques, plutôt que de les foutre par terre pour regarder la réalité du monde. Et ça c'est central. Alors après, tu veux réagir là-dessus ou on peut passer. Là, il y a la. Alors de ce point de vue-là, l'argent, on peut appliquer ce Clausewitz à ce que je viens de dire, Clausewitz, à l'argent. Il n'y a rien de plus important si je veux comprendre l'argent. Que de trouver le point de vue exact d'où l'argent doit être regardé. Il y a plein d'économistes qui ont fait nous, on n'est pas économistes avec Maurice, bon, mais il y a plein d'économistes, des gens qui ont fait des études, qui ont été financiers toute leur vie, pendant des décennies, etc., qui pensent maîtriser ce qu'ils appellent l'économie, comme un mathématicien maîtrise les maths, et qui ne comprennent rien à l'argent. L'argent, ce n'est pas ce qu'il voit. L'argent, Marx, dans la section 1 du Capital, au moment où il arrive à l'argent, il part de la valeur pour arriver en argent, et il dit que l'argent, ce n'est que la forme fixe de la valeur. La clé pour comprendre l'argent, c'est la valeur. Et l'étape précédente pour comprendre l'argent, et ça, il faut lire la section 1, c'est le rapport d'équivalence. L'argent, ce n'est pas un moyen qui permet de faire circuler des trucs ou de mesurer des valeurs, etc. L'argent, c'est ce qui permet de faire circuler des trucs qui ont été fabriqués par le travail exploité, qui permet d'accumuler de la valeur qui a été produite par du travail exploité. L'argent, c'est la matérialisation de l'aliénation des hommes, dit Marx dans les manuscrits 44. C'est rien d'autre. Et les proudhonistes de tout poil, c'est-à-dire tout le monde, se disent, bon, on voit bien que l'argent, ça a mis une sacrée merde dans l'histoire, mais c'est bien pratique. Donc, avec ma petite tête, et ça y est, les choses se remettent en marche. Ils sont plus dans la question de comment les choses doivent être regardées, comme dit Clausewitz. Hop, ils repartent sur eux-mêmes. Et donc, quelle trouvaille narcissique je vais pouvoir trouver pour sauver l'humanité, pour lui expliquer comment l'argent va être géré. Mais l'argent, il sera géré exactement comme il est depuis toujours, c'est-à-dire il ne sera pas géré. Il se développera tout naturellement dans sa logique, qui est la matérialisation de l'exploitation de la vie des hommes.
Ça, c'est quelque chose, Tout le monde connaît les trois fonctions de l'argent, mesure des échanges, moyenne d'échange et capacité de réserve, de thésaurisation. Quand on prend un billet d'argent, enfin quand on prend un billet de monnaie, qu'on regarde ça, on pense que ce billet, on le prend, on le met où on veut, et que bon, et que l'homme contrôle l'argent. Et c'est là où le cœur du cœur, c'est là où il y a un renversement de la part de Marx, qui renverse l'économie et qui fait une critique de l'économie pour montrer que aucun économiste, et d'ailleurs c'est la fonction des écoles d'économie, c'est de poursuivre l'économie, c'est d'expliquer l'économie. Mais tout le monde part des trois fonctions de l'argent. Mais qu'est-ce qui a fait que l'argent existe? Ben, il y a cette valeur, ce rapport d'échange, et tout ça, il faut remonter au néolithique. Alors, on fait que répéter ça, on fait que répéter ça, mais c'est toujours pas saisi. C'est-à-dire qu'on peut entendre des choses, mais faut savoir le caractériser, y rentrer dedans, et que ça devienne une certitude. Et à partir du moment où on a fait cet effort, là, énormément de choses s'éclairent. Je veux dire, moi, on peut écouter des économistes nous parler de tout un tas de produits dérivés, de plein de choses qu'on ne connaît pas. On sait qu'ils ne connaissent pas le fondement du départ de ce dont ils sont en train de parler. Et de là, on en revient à cette opposition Proudhon et du groupe Marx Engels. Et derrière Proudhon, c'est tout ce qui pense que l'on peut conserver l'argent. Et tout ce qui pense qu'on peut conserver l'argent, mais si l'argent devait être éternel, ce qui n'est pas le cas, mais si l'argent devait être éternel, effectivement, il faut que je fasse chauffer les neurones pour chercher tout un tas de raccommodages. Donc, souveraineté, on va récupérer la création monétaire. On va essayer, et puis pour pas qu'il y ait des méchants qui gèrent l'argent, on va tout surveiller, on va faire une démocratie directe. La démocratie, on l'a dit, on le redit, le DEM, c'est une unité territoriale dans laquelle va s'agencer, d'agencement de la valeur d'échange. Donc, c'est pas un résultat de l'argent qui va invalider l'argent, qui va invalider ce qu'il a fait naître. C'est pareil pour l'État, c'est pareil. C'est pour ça que la radicalité, ben, elle est radicale, et il y a pas de, on va prendre un peu d'économie pour, ce n'est pas possible. Et ce n'est pas comprendre ce qu'est l'argent que de penser que on garderait l'argent comme ça, des billets ou de l'argent qui serait neutre, et on en ferait ce qu'on voulait. S'il y a cet argent, c'est que le rapport de social d'exploitation est toujours là. C'est-à-dire que s'il y a cet argent, je ne serai jamais en mesure de prendre le contrôle de la destinée des hommes. Et c'est pour ça qu'on peut avoir tout un tas d'illusions, des gens qui, je pense à, et moi je connais plein de gens dedans qui sont adorables, des gens d'attaque, qui ont la solution toute simple. Il suffirait d'appliquer un pourcentage sur les transactions financières. C'est très simple, sauf que c'est hors de la réalité du mouvement réel de l'histoire. Ça n'arrivera jamais. Et dans la citation de Marx sur les souverains qui sont dominés par l'argent, il explique bien que les lois, que ce n'est pas la loi qui décide ce n'est pas les rapports de loi qui décident des rapports économiques, c'est l'économie qui impose ces lois. Et c'est ce qui se passe. Alors, on peut nous dire, oui, mais il y a une loi qui protège les pauvres de ce... Ben, regardez les lois, regardez, voilà. Et après, il y a des gens qui vont voir qu'il y a 1% des gens qui pensent, et que 1% des gens ont l'idée de s'accaparer une partie de l'argent pour diriger les 99% des autres. La réalité, c'est pas du tout ça, c'est que les 1%, les 99%, ils sont les deux, c'est les résultats de l'avancement des forces productives aliénées par la valeur d'échange. C'est un résultat, même les 1%, vous pouvez couper la tête de tous les 1%, le système de l'argent les reproduira. C'est pas, ça se joue pas là. Et comprendre ce qu'est l'argent, c'est, moi je sais, la première fois que j'ai entendu le mot abolition de l'argent, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est ces tarés, quoi? Enfin, ils sont utopiques, ils sont, on peut comprendre ça. Sauf que quand on croise, enfin, sauf que si on a un minimum de volonté d'avancer là-dedans, on voit les choses totalement différemment. Et c'est, je sais pas s'il faut dire jouissif, mais c'est ça, c'est ça donne, on est optimiste parce que la destinée, parce que la destinée est jouissive, même si c'est pas là immédiatement. On sait, je sais pas si les gens peuvent imaginer, bon, on en parlera peut-être après, de ce que c'est que le monde débarrassé de l'exploitation. On se rend pas compte de toutes les angoisses qui sont dues à ça, parce que il y a un point de départ, mais ça se manifeste dans tous les aspects de la vie, dans la sexualité, dans les inquiétudes, dans le stress. Quand on dit que dans les communautés primitives, il n'y a pas de suicide, il n'y a pas d'inceste, il n'y a pas, on ne le dit pas parce que ça fait bien de le dire, c'est parce que c'est une réalité historique. Et d'ailleurs, on n'a jamais dit qu'on allait retourner aux communautés primitives. Là aussi, c'est où on nous a pas écoutés, où on n'a pas lu les groupes radicaux à la suite du groupe Marx Engels, ou alors on est malhonnête de dire ça. Mais il n'y a jamais été question de retour en arrière. Au contraire, on ne fait que dire qu'on regarde devant. Et c'est d'ailleurs l'objet de l'émission de ce soir, de regarder devant. Bon, j'ai fait une petite digression. Je sais pas où on en était. Tu vas te débrouiller avec ça.
Je vais juste te reprendre juste sur le mot optimisme. C'est pas le mot que on n'est pas optimiste. Optimiste, c'est une posture positive par rapport à la réalité. Donc, on n'a pas de posture positive, on n'a pas de posture négative quand on est pessimiste. On est certain, mais on n'est pas certain parce qu'on a décidé qu'on était certain. On a arrêté de penser de notre petit point de vue personnel et on a accueilli le moment réel de l'histoire, et donc on est certain du résultat de ce moment réel, qui est juste le résultat de son point de départ. Et au milieu, il y a la trajectoire logique entre les deux. Et donc, ce qu'il faut que les gens comprennent, qu'ils soient le gilet jaune d'hier ou l'équivalent de demain, ce qu'il faut que les prolétaires qui nous écoutent comprennent, c'est que, par rapport, on pourrait presque dire que Proudhon, du point de vue du prolétariat, c'est pire que Smith ou Ricardo. Parce que Smith ou Ricardo, qui eux découvrent des choses, arrêtent leur découverte là où c'est nécessaire pour eux. Ils sont les représentants d'une classe, ce sont des bourgeois, et il va de soi qu'ils vont pas découvrir plus que ce qu'il est nécessaire. Ils n'ont aucune raison de remettre ce qu'on appelait tout à l'heure ensemble la matérialité, leur matérialité sociale en cause. Tu parlais tout à l'heure des économistes, les produits dérivés, machin. Tu dis qu'ils ne comprennent pas l'argent. Mais ils ne comprennent pas l'argent parce qu'ils ne veulent pas le comprendre. Parce qu'il va de soi qu'il s'il y a une chose dont ils ne veulent pas parler, c'est la réalité de l'exploitation. C'est tout. Donc, Proudhon, c'est pire que Ricardo ou Smith. Les néo-proudhonistes, ceux qui vont voir les gilets jaunes pour leur donner des combines juridiques, des combines économiques, les médecins qui ont des célébrités soudaines parce qu'ils sont un peu critiques du vaccin, qui leur parlent de biologie humaine, tout tralala. Tous ces gens-là sont pires aujourd'hui que Macron. Au moment même où il y avait les gilets jaunes gueulaient Macron dehors, Macron dehors, mais ils accueillaient dedans ces gens qui venaient leur parler. Ils feront demain un saut qualitatif énorme quand ils comprendront qu'un ennemi affiché, c'est pas qu'il n'est pas dangereux, il a une capacité de nuisance, mais il est affiché. Il est en face de moi, je n'ai aucune illusion par rapport à lui. Ce qui tue les mouvements prolétariens, ce n'est pas l'ennemi affiché, c'est ce qui le phagocyte dès le départ pour faire ralentir le mouvement social et de ralentissement en ralentissement, finir par l'étouffer. Macron, il pose aucun problème particulier. C'est facile pour un prolétaire. C'est Rothschild, c'est tout ça. Mais quelqu'un qui arrive, qui débarque et qui lui dit, qui dit au gilet jaune, non, non, mais vous allez contre mur. Alors déjà, il vous faudrait que vous trouviez un chef. Puis je vais même vous pendre un mode surdémocratique d'élection du chef. Et puis après, une fois que ce sera fait, pour vraiment le contrôler, on va s'écrire une jolie constitution. Et puis on voit que l'élan de révolte tripale qui vient du fait que je ne veux plus avoir une vie écrabouillée, petit à petit, il est écrasé, 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 et à la fin, les gens s'arrêtent, non pas parce qu'ils ont pris des coups de LBD, ce qui est terrible, mais ils s'arrêtent parce qu'ils sont épuisés et essoufflés par le prud'homisme dévorant. Et c'est pareil pour tout, on parlait de l'argent, c'est pareil pour l'État. L'État, c'est pas un truc qui m'écrase et qui est autoritaire. Les libertaires, ils sont anti-autoritaires et donc ils sont anti-État. L'État, c'est le résultat d'une logique, parce que l'État, ça veut rien dire. Il y a des formes étatiques à des moments donnés, dans des lieux donnés. Et aujourd'hui, en France, à un moment donné, l'État, c'est le résultat logique de l'État à son émergence. Quand on va voir les gens que, non, non, on va faire un État social, un État. Alors, il y avait, au 19e siècle, on a fait des émissions, on a beaucoup parlé de le français, etc. Il est normal que dans l'émergence, du projet communiste à partir du milieu du 19e siècle et dans son prolongement, il y ait des fantasmes de, ben, la sociale, par exemple, la République sociale. Parce que ces gens-là, dans le mouvement réel, n'avaient pas encore vu ce qu'est la République, quel que soit le nom qu'elle se donne. Et donc, ils fantasmaient la forme républicaine qui deviendrait sociale. Bon, c'est normal que dans l'histoire, il y ait des illusions de ce type. Mais ça, c'est complètement révolu. Et puis, on sait aujourd'hui que la forme particulière que prend l'État ne change rien au fait que l'État, quelle que soit sa forme, et que le conseil d'administration sur une zone donnée, sur un territoire, de la gestion de la valeur d'échange bien comprise, c'est-à-dire la valeur d'échange de l'exploitation du travail des hommes.
Quand nous disons, toujours pareil, c'est dans le titre, pour une vraie compréhension révolutionnaire, vraie compréhension révolutionnaire de l'abolition de l'argent, du salariat, de l'État, faut bien comprendre que tout ça, c'est la même chose sous une forme différente. Sauf qu'il y a des, il y a des, tu viens de parler de l'État, mais il y a des voilà, on va fétichiser l'État, le souverainisme. Alors certains en bien, certains en mal, mais de plus en plus en bien parce que on l'a dit, la mondialisation fait que les gens voient ça autrement maintenant. Le salariat, quand nous disons que c'est une forme supérieure de l'exploitation, ça arrive qu'on nous dise ah non, faut pas dire ça. Quand même par rapport à l'esclavage, le salariat, mais c'est une réalité objective. Il y a quelque chose de, il y a le salaire nominal, le salaire réel, le salaire relatif. Donc pour expliquer ce que c'est que le salaire relatif, si je suis un ouvrier français que je produis 1000 de valeur et qu'on me rétribue 100. Mais on peut dire qu'il y a un taux d'exploitation de 10, c'est-à-dire que je produis 10 fois plus que ce qu'on me donne. Si je prends un ouvrier d'Indonésie qui va produire 4 et on va lui donner 2, eh bien, il a un taux d'exploitation qui est du double. Et donc, il y a un rapport de 2 pour l'Indonésien et un rapport de 10 pour le Français. Le Français est bien plus exploité que l'Indonésien, mais c'est du point de vue de la valeur. Et ça ne veut pas dire que les conditions de travail de l'Indonésien peuvent être terribles. Si j'avais le choix, moi, personnellement, mais je préfère être l'ouvrier français. Mais dans la réalité de la loi de la valeur, l'extorsion de plus-value, elle se fait bien plus sur l'ouvrier français. Et ça, c'est permis parce que ce qu'on a dit en début d'émission, par le machinisme, par le travail mort. Voilà. Et ça, on va pas forcément le comprendre si c'est dit que comme ça, mais tout ça, c'est des choses fondamentales à saisir. Le salariat est une forme d'exploitation supérieure. Et quand tout à l'heure, tu parlais de gens que tu avais croisés, je sais que, ben, je vois de tu parles, qui parlent notamment du salaire à vie et qui se réclament de Marx. On a des gens parce qu'ils ont lu qu'il y avait marqué que il y avait une partie du salaire qui n'était pas payée, ce qui est vrai. Mais s'il y a une partie, ils pensent ces gens-là que la partie du salaire qui est pas payée, eh ben il faudrait se battre pour qu'on la paye. Et comme ça, le salaire serait bien. Ce qu'ils ne voient pas, c'est que cette partie-là, cette extorsion, elle est consubstantielle au salariat. S'il n'y avait pas cette partie-là, le salariat n'existerait pas. Et c'est pour ça que, notamment dans Salaire, Prix et Profit, Marx finit par abolition du salariat. C'est assez clair, normalement, abolition du salariat. Alors, c'est pas le, c'est quand il dit ça, c'est abolition de la valeur d'échange. C'est ce dont on va parler bientôt, c'est le processus de communisation qui ne peut arriver que quand des conditions objectives seront réunies. On y est très proche, on y est très proche de ces conditions objectives. On y avance, mais que l'on les connaisse, qu'on les vive ou qu'on ne les vive pas, le fait de se mettre en destination de compréhension consciente de cela, on ne peut pas faire plus. Voilà. On n'a pas de solution à proposer. C'est là où il y a une différence majeure entre le groupe Marx Engels, qui ne donne pas une solution. Il n'y a pas écrit, il faudra faire ça. Il y a un mouvement réel qui est décrit, une vie, un déploiement et une fin de l'exploitation, et qui débouchera sur ça. Et c'est notre destination. Et toutes les solutions qui sont proposées par les doctrinaires, c'est des solutions qui ont pour point de départ une analyse qui est biaisée.
Tu parles du salariat et tu dis que c'est pire que l'esclavage. Et puis les gens réagissent comme tu le dis, c'est-à-dire ils sont heurtés parce que parce qu'ils sont libres, à part expliquer ce qu'est la liberté. Sauf que c'est la même chose que ce que je disais tout à l'heure sur Proudhon par rapport à Smith ou Ricardo. Le salariat, c'est pire que l'esclavage parce que c'est un esclavage déguisé. L'esclave, il sait qu'il est esclave. Ça rend pas sa condition désirable. Mais il sait qu'il est esclave, il sait donc, il peut donc se projeter sur ce qu'il veut abolir. Spartacus, par exemple. Le salarié, il est travailleur libre. Il pense que son émancipation est réalisée dans l'éternisation du travail. Donc c'est bien pire. Bon, alors après, il y a la fameuse formule que l'esclave, il est acheté une fois, le salarié doit se vendre chaque matin, etc. Mais la conscience de sa condition, c'est ça l'aliénation. Et c'est pour ça qu'on vit l'époque la plus dingue. Les plus grands ennemis, ce que je disais tout à l'heure, sont vus comme les plus grands amis. Les ennemis, secondaires et évidents deviennent centraux. Ma condition la plus aliénée de l'histoire devient une condition libérée comparée aux conditions passées de l'histoire. Tout est renversé. Alors après, il va falloir peut-être qu'on parle justement, on est sur le salariat, de la position du travail, de Marx sur le travail, parce qu'on a eu des questionnements qui sont utilisés par tous les néo-proudhonistes hypocrites. Pour essayer de faire lire à Marx ce qu'il ne dit pas. Au début, donc dans les années 1840, quand Marx pose la méthodologie radicale, ce que Rubel a, c'est le tome philosophie de Rubel, c'est-à-dire il fait pas la philosophie, mais les principes. Marx pose abolition de l'État et donc abolition du travail, puisqu'on parle du travail là. Il le pose clairement dans l'idéologie allemande. Je pense qu'on mettra une citation. Abolition du travail. Et puis des gens vont pêcher sans lire l'œuvre dans sa logique qui elle-même a une origine, un développement et un point terminal. Et le point terminal n'est que le développement du point originel. Vont tirer par exemple une phrase de la critique du programme de Gotha où Marx parle de la phase de transition, de la phase supérieure. Où le travail sera de quand le travail sera devenu le premier besoin de l'homme, etc. Et donc, celui qui ne veut pas voir, on parlait des économistes tout à l'heure, celui qui ne veut pas voir, il a tout cuit sous les yeux, c'est facile. Il suffit de dire, ah ben Marx, là où il disait abolition du travail, maintenant il nous dit travail, premier besoin de l'homme. Donc Marx était un jeune idéaliste romantique, post-philosophant de sa jeunesse. Et puis, il est devenu un mec expérimenté, qui a creusé l'économie, sérieux, mature, et puis il comprend bien que l'homme est fait pour travailler. Mais ces gens-là trichent. Déjà, le mot travail, il va de soi que quand on dit abolition du travail, c'est l'abolition du travail exploiter ce qui est contenu dans mon travail, qui est tripalium, c'est un instrument de torture. Le travail, ce n'est pas l'activité productive des hommes. Le travail, c'est l'activité productive exploitée des hommes. Il va de soi que avant le travail, les hommes avaient une activité productive, ils n'étaient pas oisifs, et après le travail, ils continueront à avoir une activité productive qui n'est que l'activité productive de leur propre reproduction quotidienne. Ils ne peuvent pas s'en passer. Et donc, ils prennent ce mot-là dans la phase de transition, parce qu'il faut comprendre ce qu'est une phase de transition. C'est une question de. C'est toujours pareil, il faut temporaliser. La phase de transition, on peut dire que tout devenir a une phase de transition. On prend un humain, on passe pas du stade de l'enfant, et boum, un matin, on est un adulte. On a une phase de transition qu'on appelle l'adolescence. Et puis elle-même, elle est subdivisable. On a une part de l'adolescence où on est encore plus enfant qu'adulte, et puis on a la deuxième part de l'adolescence où on est plus adulte qu'enfant. Et puis, on pourrait subdiviser. Le communisme, ce n'est pas un truc qui débarque, il y a du capitalisme, et puis d'un seul coup, boum, il y a du communisme. Il y a l'adolescence du communisme. Et l'adolescence du communisme est déterminée, comme toute chose, par ce qu'il a fait naître. Donc, au moment de la phase de transition, il faudra qu'on dise deux mots sur ce qu'est la dictature du prolétariat, parce que c'est encore un mot qui terrifie ceux qui ne veulent pas regarder, toujours. Au moment de la phase de transition, je récupère toute la merde, nous, tous ensemble, récupérons toute la merde dans la phase de communisation que le capital a mis en nous. Notre tension communiste, c'est de tendre vers à chacun selon ses besoins. À chacun, c'est quoi la phrase exacte, Maurice? C'est à chacun,
Selon ses
de
capacités,
chacun selon ses moyens, à chacun selon
à
ses
chacun selon
capacités,
ses
à chacun
besoins.
selon ses moyens. C'est immédiatement la tension de la communisation qui tend vers ça. Mais ça, ce n'est réalisable, ce n'est pas une idée. Ce n'est réalisable que si la matérialité sociale permet de le réaliser. Donc, quand on sort du travail exploité, on en sort tout en y restant au début, mais sauf qu'il n'est plus exploité. On continue, c'est ce que Marx explique dans la critique du problème de Gotha sur la phase inférieure. Au début, on continue à travailler et à décompter notre temps de travail, mais ça n'a rien à voir avec de la valeur, parce que c'est je donne un certain temps de travail à la communauté naissante, et en retour, j'aurai une certaine quotité pour satisfaire mes besoins, mes besoins de consommation, de ce qui a été produit. Mais la clé, c'est ça que dit Marx, c'est que bien qu'on hérite de ce rapport quantitatif qui demeure quelque temps, je ne peux amener rien d'autre que ma force de travail, je ne peux donner que mon travail à la communauté, je n'y amène pas du capital accumulé, je ne donne que ma force de travail, et je ne peux récupérer que des produits consommables, donc je ne peux pas capitaliser, je ne peux pas amener du capital, et je ne peux pas capitaliser. Et donc, on aura des bons, parce que je sais qu'on a eu des questions là-dessus, on aura des bons, mais qui ne sont pas... Les bons horaires de Proudhon, c'est des bons qui, au début, gardent la mesure du temps, non pas dans le bon, mais il va de soi qu'au début, on récupère également les gens qui sortent du capitalisme, les prolétaires qui sortent du capitalisme, certains qui travaillent plus que d'autres, des oisifs, etc. Donc, dans un premier temps, on est obligé de mesurer la quantité amenée à la collectivité, à la communauté.
Mesurer la participation, parce que dans cette
Voilà.
phase de transition entre la phase de communisme inférieur qui va naître des décombres du capitalisme, ben, ça va être hétérogène. Enfin, il va bien falloir, au travers de ces bons qui sont non pas des bons pour échanger des heures, c'est des bons d'appartenance qui montrent qu'on participe au processus de communisation. Voilà. Et donc ça, on va y revenir, mais juste, enfin, au cas où on oublierait, je ne sais pas si tu as prévu d'en parler après, mais sur l'éclaircissement Tu as éclairci le mot travail, à savoir que son acception, ceux qui veulent par ignorance ou par mauvaise foi faire dire à Marx des contradictions qui n'en sont pas. Il y a aussi le mot de parti à éclairer qui pose problème. Donc je te laisse éclairer le mot parti. Moi, je vais juste éclairer le mot formation du prolétariat. Dans l'idéologie allemande notamment, Marx parle de formation du prolétariat. Alors, pas que sur ça, mais il y a des gens qui parlent de formation du prolétariat en disant, par ignorance ou mauvaise foi, en disant que il y aurait besoin de former le prolétariat, mais ce n'est pas du tout ça. C'est il y aura une formation du prolétariat qui s'opérera dans le processus de communisation, dans le sens de l'immanence d'une formation. Il s'agit pas de former le prolétariat. Le processus de communisation va faire qu'il y aura une concentration, une convergence, une formation du prolétariat. C'est ce mot-là qui peut être mal interprété. Encore une fois, pour différentes raisons. Donc, si pour éclairer le mot parti, parce que là aussi il y a beaucoup d'interprétations biaisées par rapport à ce mot, et aussi parler, on parle de cette phase de transition. On a parlé de dictature du prolétariat, et notamment, on va y revenir, mais on doit parler notamment après l'expérience de la Commune, qui est très riche d'enseignements, qui, même si elle a été partielle, a mis l'école proudhonienne blanquiste dans le processus, a fait voler en éclats toutes les solutions qui étaient apportées, puisque tous les gens qui se revendiquaient de Proudhon ou de Blanqui, tout ça, le processus de communisation, quand ça avance, quand ça commence, il n'y a pas, c'est pas, on réfléchit à ce qu'on a étudié avant, à une solution ou quoi, c'est l'immanence du mouvement fait qu'il y a communisation. Voilà. Pour le mot
Donc,
parti notamment.
sur le parti, ouais, d'accord, mais il faudra qu'on revienne à la question de la phase de transition, pas la laisser en
D'accord.
cours, quoi. Alors, Marx écrit le manifeste du Parti communiste, mais les menteurs, et donc les marxistes aussi dans l'histoire, s'en servent pour nous expliquer que Marx contient Lénine, en quelque sorte. Mais Marx, c'est le penseur du mouvement réel de la classe. Lénine, c'est le penseur de l'inaction de la classe, qui est par nature inerte, et qui doit être mise en mouvement par ceux qui sont extérieurs à la classe, qui sont des intellectuels spécialistes de la révolution, et qui constituent un parti pour remuer la classe. Chez Marx, c'est pas ça. Chez Marx, le parti, c'est forcément pas toute la classe. Toute la classe n'est pas nécessairement consciemment dans le parti. Mais c'est la partie la plus consciente de la classe. Ce n'est pas la partie la dirigeante de la classe. Mais ça, c'est très clair chez Marx. Les interprétations sur le parti que les gens font, c'est une interprétation qui est toujours utile pour ceux qui veulent camoufler la réalité. On prend le parti bolchevique, et puis c'est très bien, il s'appelle communiste. Donc, comme disait Pierre Guillaume, c'est le plus grand mensonge du XXe siècle, c'est ça, c'est qu'on a appelé communiste, c'est-à-dire la naturalité humaine, ce qui est de l'antinaturalité absolue, le capitalisme d'État soviétique et de tous les pays de l'Est. Le communisme... Alors, je ne sais pas si on l'a mis, je crois qu'on ne l'a pas mis celle-là, mais les gens croient que le communisme, déjà chez Marx, ce serait le bolchevisme. Mais Marx écrit noir sur blanc dans l'idéologie allemande que le communisme n'est pas, alors j'ai plus la phrase en tête, tu vas la compléter, mais n'est pas un état de choses à établir, n'est pas une idée à mettre en œuvre, c'est le mouvement réel qui découle de la réalité du monde réel préexistant, qu'est la crise du capital. C'est pas un dogme à mettre en place. C'est la réalité de la naturalité humaine qu'est de vivre communautairement qui peut enfin se réaliser parce que la possibilité de l'anticommunauté, qu'est le capital, n'arrive plus à se réaliser. Donc ça ne se réalise pas quand on veut. Mais ceux qui ont une soif de pouvoir, à la Lénine, à la Trotsky, à la Staline, etc., et qui veulent, eux, une immédiateté de pouvoir, peuvent tout à fait se servir de du parti, de l'État, parce que l'État, c'est pareil. On va nous expliquer, Marx dit en 1846, abolition de l'État. En 1848, dans le Manifeste communiste, qui est un texte qu'il écrit lui avec Engels, mais qui est une protection comment on appelle, la Ligue des communistes.
Salut.
Ne mettez pas Maurice. C'est une protection pour la Ligue des communistes. Et donc il faut qu'il y ait un certain consensus. Et comme ils sont pas au clair, et qu'il est le penseur du mouvement réel de l'histoire, et qu'il n'est pas dogmatique, il pose à ce moment-là des mesures transitoires qui ont une forme étatique. Puis le temps passe, arrive la Commune de Paris en 1871, et tout de suite, comme il n'est pas dogmatique et qu'il est le penseur du mouvement réel, il accueille le mouvement réel, il voit ce que fait en pratique le prolétariat, pas dans sa tête, en pratique, et il écrit dans la guerre civile en France que, suite à la Commune de Paris, il est évident que la machine d'État doit être détruite immédiatement, qu'on ne peut pas, que le prolétariat ne peut pas le prendre à son compte pour faire un État prolétarien. Et il précise en 1872, dans la réédition du Manifeste communiste, dans une préface, que par conséquent, les mesures transitoires de 1848, qui ont une forme étatique, sont obsolètes. Mais évidemment, que fait un tricheur? Ben, il va chercher, il ne lit pas l'œuvre de Marx dans toute sa logique et toute sa plénitude, il va chercher des formes transitoires, et puis il montre aux gens, vous voyez, les formes transitoires de 1848, au moment où le mouvement réel ne pouvait pas, ne nous permettait pas à Marx d'être parfaitement au clair sur ce qu'était la phase de transition, et ben, il justifie ça pour dire que Marx, qui était pareil, romantique dans sa jeunesse, est devenu, comment dire, pragmatique, étatique, etc. Non, c'est pas cette réalité. Donc on avait parlé de parti-État et tu parlais d'autre chose?
Non, je t'avais coupé, on était sur la phase de transition, mais c'était pour pas oublier la clarification du mot parti. Et ensuite, mais c'est en lien avec ce que tu viens de dire, et c'est aussi en lien avec, on peut repartir sur la phase de transition, avec la dictature du prolétariat qui est devenue, notamment après l'épisode de la Commune, la dictature anti-étatique du prolétariat, dans le sens où on peut pas gérer le pouvoir, il s'agit de le détruire d'emblée. Et là, on revenait à cette phase de transition, mais même sur ce mot dictature anti-étatique du prolétariat, dire un mot quand même là-dessus, on peut entendre, ah bon, mais vous voulez la dictature, voilà, mais c'est le prolétariat qui va avoir conscience que c'est la dernière classe qui abolit toutes les classes, va s'imposer à la classe capitaliste précédente qui est en décomposition de par l'effondrement, de par l'intensité de la crise qui en implication réciproque permet le processus de communication qui s'intensifie en même temps que s'intensifie la crise. Et donc il va y avoir une dictature, mais c'est pas des prolétariats qui vont venir avec des fouets frapper les gens. C'est pas du tout ça la dictature anti-étatique du prolétariat. C'est le fait d'imposer dans cette phase de transition. On a parlé des bons d'appartenance, c'est-à-dire il y aura forcément tout un tas de dans l'effondrement, dans cette hétérogénéité, il y aura forcément dans les combats qu'il y aura, puisque c'est quand même une période de transition, mais cette appartenance, elle est très importante, des gens qui vont manifester, vouloir se manifester en tant qu'appartenant à ce processus de communisation. Avant qu'il gagne tout le monde, il ne va pas gagner tout le monde d'emblée. Donc, il est important de passer par cette phase, de transition.
Donc, sur la dictature du prolétariat, faut pas avoir peur des mots. C'est comme la liberté. La liberté est positive du point de vue du capital, et la dictature, ben, ça dépend ce qu'on y met. La dictature, c'est quand on dicte quelque chose. Donc, le moment de la transition, c'est le moment de la guerre de classe. Il y a deux camps. Il y a le camp du capital finissant, il y a le camp du communisme naissant. Il va de soi que le camp du capital finissant veut continuer à dicter sa loi, qui est la loi de la valeur, qu'il ne pourra pas dicter puisqu'elle est en train de mourir. Mais c'est ce qu'il veut dicter. Il va de soi qu'en face, le prolétariat veut dicter sa loi, qui est la loi de la vie, disons. Donc, et c'est la dictature du prolétariat. Ce n'est pas la dictature du parti, de ceux qui savent et qui traînent derrière lui la masse du prolétariat inerte qui ne sait pas. Non, c'est la dictature de la classe prolétarienne. Et alors, combien de temps elle dure? Elle dure le temps qui est nécessaire. La question des bons travail, qui sont encore, disons, c'est la vie qualitative qui naît, qui est encore polluée en partie par la vie de la quantité préalable. Elle dure le temps qu'on arrive, le temps nécessaire pour rendre matériellement possible de satisfaire la vie de la quantité pure. C'est tout. Donc, c'est le mouvement réel qui décidera. Mais c'est pas, c'est pas un truc qui s'impose de l'extérieur. Faut s'imaginer ce qu'est le début de la phase de transition. C'est le moment du chamboulement, oui, c'est le moment le plus compliqué du point de vue des pénuries, des choses à acheminer, etc. Il va de soi que là, on ne peut pas faire à chacun selon ses besoins dans l'immanence totale, dans la pénurie qui arrive. Donc, tant que la pénurie ne permet pas, la pénurie qui s'arrange, qui ne peut que s'arranger dans le processus de communisation, mais le départ, faut gérer tout, l'arrivée de l'énergie. Il y a un moment de difficulté, qui est une difficulté voulue et humaine. Il n'y a qu'à lire le texte d'Orwell sur Barcelone, où il y avait des difficultés, mais il y a immédiatement la joie, parce que c'est le moment de la ressaisie de sa propre vie. Mais il y a une difficulté, et il va de soi que qu'on ne peut appliquer en vérité et en immanence à chacun selon ses besoins que quand la matérialité sociale dont on parle depuis le début le permet. Donc la phase de transition, c'est le temps d'organisation d'une matérialité sociale qui permet de se débarrasser totalement de la quantité préalable, du monde préalable de la quantité.
Et cette phase-là de communisme inférieur qui va déboucher sur le fait que les forces productives, donc l'exemple de la planche, des plans, de la fabrication des planches, c'est tous nos besoins sont soumis, sont des forces productives aliénées par la valeur d'échange. À partir du moment où ces forces productives vont avoir pour destination le fait de réellement répondre aux besoins humains, il faut bien voir que ce soit dans la nourriture, dans la santé, dans tout un tas d'aspects, on n'imagine pas. Alors, certains imaginent dans leur secteur spécifique, dans la santé, d'autres sont dans l'alimentation, d'autres sont sur tel ou tel secteur, mais on n'imagine pas ce qu'impose la valeur d'échange en termes de restrictions, d'épanouissement et tous les problèmes que ça cause. Comme tu as dit, ça va être dur, cette phase. Bien sûr qu'il y aura des difficultés, mais dans la difficulté de communisation, il y aura des joies immenses qui vont faire que cette phase de transition, on ne peut pas dire combien de temps elle va durer parce qu'il y aura une réalité et ça sera une immanence. C'est pas une solution de doctrinaire qui va être appliquée, c'est le processus de communisation qui va commander ça. Mais quand on parle de souvent ça interroge les gens et c'est normal que ça interroge les gens, mais faut que cette interrogation elle avance. Les gens ont peur sur l'argent a tellement tout colonisé, qu'on a l'impression que abolition de l'argent, déjà les gens raisonnent à partir du monde de maintenant et vous on arrêterait l'argent. Effectivement, tout s'arrête puisque c'est l'argent qui est le moteur de tout. Donc là, dans l'esprit des gens, il y a un blocage. Mais durant cette phase de transition, quand les forces productives vont faire que l'activité humaine va devenir le premier besoin de l'homme, c'est-à-dire que l'homme a besoin de se nourrir, de se loger, mais l'homme, avant tout, il fait tout ça dans des relations sociales. Et tout ça va revenir dans le qualitatif tel qu'il doit être, avec ce bénéfice qu'aura été le mode de production capitaliste, c'est-à-dire que ça va être une conscience universelle. L'aspect positif de la valeur d'échange, c'est qu'elle a universalisé le monde. L'autre ne sera plus un étranger, comme c'était le cas dans les communautés primitives qui n'avaient pas cette universalité. Donc ça, c'est quelque chose de
Et
positif, t'as
par
dit.
rapport à ce que tu dis là sur l'argent, mais les gilets jaunes l'ont déjà expérimenté. Quand ils se retrouvent et que ces gens qui étaient coincés dans des vies individuelles aliénées, exploitées, se retrouvent là à discuter et à se projeter. Il se retrouve sur un rond-point, et puis alors le boulanger, il ne peut pas s'arrêter, mais en passant, il amène du pain, puis il le donne gratuitement. Et puis quelqu'un amène des pâtisseries, et puis on amène de la nourriture et des boissons, etc. Il ne se crée pas soudainement sur le rond-point, là, un accaparement, une mise en place d'un échange, etc. On gère communautairement. Alors c'est facile sur un rond-point, il y a 20 personnes, je ne sais pas, 30 personnes, il y en avait des plus petits, des plus grands, mais on gère communautairement, on ne gère pas d'ailleurs, on vit communautairement, et donc les stocks, ils sont gardés, et puis une nouvelle vie d'argent n'émerge pas comme ça par hasard. Par contre, quand ça va arriver sur un rond-point à 30, c'est facile, mais quand ça va arriver dans une ville entière, une ville de 100 000, 200 000 habitants et plus. Il va de soi que cette immanence, elle ne peut pas être une immanence qui est facile à vivre à 20 parce que c'est direct, c'est donc vraiment immanent. Mais on ne vit pas une immanence à 100 000, ce qui est déjà une proportion anti-humaine, c'est pour ça qu'on détruira les villes, alors que Proudhon trouve tout à fait normal et éternise la séparation ville-campagne, le communisme abolira les villes parce que les villes ne sont que la production de l'argent. Ça n'existe pas de façon naturelle une ville. Mais dans ces villes où on en héritera comme du travail au départ. On hérite des villes et les gens ont des logements, ils ne dorment pas dehors, ils sont là. Et puis il faut les prendre parce que c'est des enjeux de pouvoir centraux par rapport aux capitalistes qui veulent demeurer. Donc, au début, là, comment on n'imagine pas une immanence spontanée à 100 000, une immanence à 100 000 quand on ne se connaît pas, là, il faut organiser. Et c'est là qu'on voit la nécessité des bons, mais qui ne sont pas de l'argent. Ça n'est pas échangeable, ça n'est pas thésaurisable. Je n'amène que ma capacité de production à la communauté. Je ne récupère que des produits consommables de la communauté. C'est tout. Et le processus se débarrasse du quantitatif au fur et à mesure qu'il crée la matière sociale qui permet de se débarrasser du quantitatif. Ça se fait dans l'immanence. Je t'ai coupé.
Non, non, c'était. Je pense que j'avais fini et on en est à cette phase donc de transition inférieure vers un
Mais la
communisme.
transition, c'est pareil, juste, je te recoupe. La
Vas-y, vas-y.
transition, c'est pareil, c'est pas un dogme qui est sorti de la tête de Marx, et puis on adhérait au dogme, bon, il y a nécessairement une phase de transition. J'ai donné l'exemple dans la vie humaine de la phase de l'adolescence, mais on peut prendre d'autres modes de production. On n'a pas eu le mode de production féodal pur, qui un jour est tombé pour donner naissance le lendemain au mode de production capitaliste pur. La bourgeoisie, dès l'an 1000, émerge de l'intérieur même du mode de production féodal, qui va perdurer pendant des siècles, et qui sera donc féodal d'une façon déterminante et en sous-jacence bourgeois naissant. Et le moment où on passe un cap, c'est le moment où ce qui est surdéterminant, c'est le bourgeois naissant, en rentrant dans le monde capitaliste, mais qui a encore en lui-même tout un tas d'antériorités féodales, qui va lui-même mettre un certain temps pour digérer et pour se débarrasser. Dans l'affaire Dreyfus, l'affaire Dreyfus, qui est plus de 100 ans après la Révolution française, on a encore à se débarrasser de l'armée et des curés, qui est un héritage du passé. Et on va rentrer en 1914 à la domination réalisée, où ça y est, il est vraiment lui-même. Mais donc, il y a de la transition dans tout. On ne passe pas d'un stade A à un stade B de façon pure et brutale. Jamais. Donc la phase de transition, elle est absolument certaine. Ceux qui en doutent, c'est ceux qui ont envie d'en douter. Mais c'est la logique parfaite. Donc si la valeur est mourante, on a dit un certain nombre de choses, on ne va pas repartir sur la baisse du taux de profit, etc. On a plein d'émissions. La valeur est mourante, elle va mourir. Elle va nécessairement donner naissance au communisme et il y a nécessairement une transition entre l'un et l'autre. Donc on en est là, Maurice, avant que je te
Oui.
coupe. C'est figé, je ne sais pas
Et
si je...
non, ce que je voulais ajouter,
C'est
c'est
bon,
juste
c'est
dans
revenu.
comment?
C'est bon, c'est revenu, c'était figé.
Ce que je voulais ajouter, c'est dans cette phase de transition, dès qu'on en parle, il y a un blocage et qui est dû au fait que l'argent a vraiment colonisé. Est vraiment le moteur de toute notre vie, parce que les gens assimilent l'échange au fait que ça bouge, qu'on échangerait des choses, on peut produire pour les besoins humains et distribuer des choses partout dans le monde. Il n'y a pas un blocage parce que l'échange, la valeur d'échange n'est plus là. Les forces productives vont répartir, produire, distribuer. Il y aura aucun problème. C'est-à-dire qu'on se pose des fausses questions parce que on n'a pas la connaissance de ce principe de base qu'à partir du moment où l'homme ne produit plus pour les besoins humains et qu'il produit via la mondialisation de l'échange, il produit une puissance étrangère qui fait qu'il va être dominé par cette puissance étrangère. Et je reviens au titre de l'émission, on voit bien que cette opposition, où on espère avoir montré que cette opposition, elle est totale entre le groupe entre le groupe Marx, Engels et Proudhon, il n'y a pas de synthèse ou de mi-parcours entre l'abolition de l'argent et la conservation de l'argent, entre l'abolition de l'économie et la préservation de l'économie sous une forme différente, que tout ça, ça va être total et que c'est pas parce qu'on en parle que ça va arriver, mais par contre, c'est important de transmettre cela parce que il y aura un processus pratique de communisation qui sera dans l'immanence et là il n'y aura pas un tel contre un tel, c'est l'immanence va commander et il y aura cette jonction de la réalité pratique de la communisation et de ce qu'est la conscience de cette destination de la communauté humaine universelle. Et cette jonction là fait que on va vers l'accomplissement de notre destination, qu'est la communauté humaine universelle.
Et la radicalité, puisque tu as utilisé ce mot, c'est pas, c'est là encore, c'est pas un dogme. C'est-à-dire, soit je tends vers le radicalement vrai, je suis imparfait, mais je tends vers le radicalement vrai, et donc soit collectivement nous tendons vers le radicalement vrai, soit je cherche une position intermédiaire entre le vrai radical et la fausseté radicale de la valeur. Et je crée du faux de la valeur. Quelqu'un qui aujourd'hui voudrait adhérer à une position politique intermédiaire qui ménagerait Proudhon et Marx, qui donc en fait mettrait Marx totalement à la poubelle et ne ferait que du Proudhon, celui-là, il pourrait être un prolétaire bienveillant. S'il adhère à cette proposition vraiment, au moment précis où cette proposition arrive au pouvoir, s'y émergent contre ce pouvoir des prolétaires radicaux, il tirera dessus. Je peux pas adhérer à l'intermédiaire. Si j'adhère à l'intermédiaire et que j'y trouve une satisfaction, je fais exactement comme nos économistes tout à l'heure. Je m'arrête là où je suis satisfait. J'ai jamais intérêt à aller au-delà de ma satisfaction. Si je suis satisfait de l'intermédiaire, le maximaliste va m'être insupportable. Donc, je me fais croire à moi que je suis un intermédiaire moins pire que Macron, que Attali, que tout ce que vous voulez, que Biden, que Zelensky, etc. Mais je suis pire qu'eux parce que je me fais croire que je veux de l'humain et je taperai sur l'humain quand il se manifestera. On n'a pas parlé de la question de la nature humaine, mais ça se dit en une phrase, mais bon, je crois qu'on a mis une phrase sur la nature humaine. Parce que c'est quelque chose qui revient aussi. Ouais, bon, ce que vous dites, c'est beau, on aimerait bien, mais regardez les gens comme ils sont, ils feront pas. Mais Proudhon pense qu'il y a une nature humaine, comme il pense qu'il y a une concurrence infinie, comme il pense qu'il y a une économie infinie, un crédit infini, de l'argent infini. Il éternise toutes les catégories du capital. Et comme le capital souhaite que la nature reste définie, la nature humaine, telle qu'elle est maintenant, demeure pour l'éternité ce qu'elle est, il va de soi que le capital dit il y a une nature humaine, il y a de la violence, il y a des viols, il y a des meurtres, etc. Mais il n'y a pas de nature humaine autre que dans l'histoire. L'histoire, je ne sais plus la citation, mais l'histoire, c'est le développement perpétuel, continu de la nature humaine. C'est l'humain qui se produit lui-même, nous, toujours nouvellement, dans une histoire toujours nouvelle.
Par rapport à ce que tu veux développer, c'est en référence quand les gens parlent de ça, enfin, sur les retours que l'on a, c'est un questionnement qui revient souvent, c'est oui, mais bon, l'argent, c'est une chose, mais il y a la nature de l'homme qui veut être un chef, qui veut dominer. Voilà. Et donc ça, mais toujours pas, c'est toujours dans l'idéologie allemande, la compréhension de ce que la nature humaine est le produit d'une pratique sociale. Retranscrit en abrégé, ça veut dire que là où il n'y a pas d'espace de pouvoir, d'espace d'exploitation possible, donc là où il n'y a pas de valeur d'échange, il n'y aura pas cette chefferie, il n'y aura pas de volonté de dominer. Et ça, c'est difficile à imaginer parce qu'on éternise les choses, puisque effectivement, ça a été le cas pendant plusieurs milliers d'années, comme c'est le cas. Puisque la valeur d'échange est là depuis des milliers d'années. Mais on éternise tout ça. Et le groupe Marx-Engels nous montre qu'il y a un mouvement dans l'histoire et que cette valeur d'échange, elle est historique dans le sens, elle a une apparition, mais elle n'est pas éternelle, ou elle va disparaître.
Donc pour finir, on s'est souhaité une bonne année au début. Ben je ne sais pas, je voudrais pas qu'on oublie des choses essentielles. Tu penses que c'est bon?
Peut-être que c'est pas bon, mais ça pourrait pas qu'on soit trop
Bon,
long.
on va se souhaiter on va vous souhaiter et nous souhaiter à tous ensemble une bonne année. Du point de vue de ce qu'on a dit tout au long, c'est-à-dire que l'année n'est pas bonne parce que j'ai des plaisirs indistincte. L'année n'est pas bonne parce que ma proposition politique gagne du terrain ou parce que j'ai rencontré des camarades sur un terrain aliénatoire, souverainiste, je ne sais pas quoi, libertaire, etc. L'année est vraiment bonne si elle est vraiment vraie, et elle est vraiment vraie si elle est radicalement, vraiment humaine.